I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario! Ouais!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Hello, c'est Max. Bienvenue pour ce 30e épisode du podcast Tennis Légende. On repart avec un coach cette semaine qui fut par ailleurs un des meilleurs joueurs au monde chez les jeunes pour avoir remporté le mondial des moins de 14 ans. Notre invité a été un des premiers jeunes joueurs avec un certain Cédric Pioline à s'affranchir du système fédéral tout en réussissant à accéder au top 100 mondial en ayant au passage vécu quelques belles anecdotes sur le circuit secondaire. Il s'agit de Frédéric Fontan qui a affronté la bagatelle de 5 numéros 1 mondiaux différents, Edberg, Courir, Muster, Sampras et Agassi. Solide pour un joueur dont la progression a été stoppée aux portes du top 50. Grâce à sa casquette d'entraîneur du circuit, on va pouvoir comprendre son blocage de l'époque et revenir sur ses récentes success stories. Une collaboration magnifique avec Jérémy Chardy, un rebond incroyable avec un premier Canadien en l'emmenant aux portes du top 20 en simple et dans ce qu'il se fait de mieux au monde en double, pour enchaîner en tant que co-entraîneur d'une pépite plus que montante, Félix Auger-Aliassime, qui l'a déjà mené à la 17e place mondiale à 19 ans. On leur souhaite d'aller le plus haut possible et de décrocher des grands chelems. On aborde le sujet de la pression des entraîneurs au plus haut niveau et de la manière de la gérer pour conduire les projets sportifs le plus loin possible. Puis notre entraîneur nous parle de l'expérience d'un mois vécu à Dubaï qui a vu Félix s'entraîner quotidiennement avec Mr. Roger Federer. Il nous livre son secret pour fonder une famille quand on est constamment sur le circuit et finit par nous confier son rêve en dehors du cadre tennistique. Cette interview avec un des acteurs du très haut niveau vous est proposée en collaboration avec Yonex. Nous avons choisi de nous associer avec cet acteur historique du circuit pro puisque la marque Nippon, qui a créé sa toute première raquette il y a plus d'un demi-siècle, accompagne aujourd'hui quelques pépites de l'ATP et de la WTA, comme Stan Wawrinka et Naomi Osaka, mais aussi les explosifs Kyrgios et Shapovalov, l'allemande Kerber, l'étoile montante norvégienne Casper Ruud, ou encore les franchises Pierre-Hugerbert et Fiona Ferro. C'est donc la garantie de jouer l'acier et d'avoir du matos stylé en bonne légende qui se respecte. Si vous avez 5 secondes et demie et que vous voulez changer notre vie, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et nous motive à vous régaler chaque semaine. Et partagez vos épisodes préférés, abonnez vos amis parce que le bouche à oreille nous aide et fonctionne à merveille. Place au 30e épisode avec Frédéric Fontan. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
Nickel. Alors, Fred, tu es né le 16 mars 70 à Casablanca. Tu mesures 1m83 pour 70 kilos à l'époque de ta fiche
à l'époque.
Je sais pas.
Non, ça n'a pas trop bougé. La taille, pas encore. Le poids, ça va. C'est à peu près 1 ou 2 kilos de plus, ça dépend des périodes.
Aujourd'hui, tu habites à Pau, dans ce magnifique sud-ouest français. Je dis ça parce que je suis à Bidart, en dessous de Biarritz. Tu as été champion de France, Benjamin et Cadet. Tu as gagné les petits as en 84. Vous avez gagné la Coupe Galéa, qui est la petite sœur de la Coupe Davis avec Arnaud Butch et Guillaume Raoux. En quelle année? J'ai pas l'info. Est-ce que tu t'en souviens?
89.
Très bien. Tu as été joueur pro de tennis pendant 10 ans, de 89 à 99. 59e joueur mondial à ton meilleur en 91. Tu as remporté un titre sur le circuit principal cette année-là à Palerme, sur terre extérieure, en sortant Andrei Medvedev au premier tour, qui était 250e mondial à ce moment-là, et Emilio Sanchez, 12e en finale, alors que toi, tu étais 104e. Tu as joué 9 fois en tableau final de Grand Chelem, et tu as fait une fois deuxième tour à Roland en 97. Après ta carrière de joueur, tu es devenu entraîneur de Jérémy Chardy. À cette époque-là, il est 15-5. 11 ans plus tard, en 2010, tu l'accompagneras jusqu'à la 31e place mondiale. Sportivement, votre aventure est extraordinaire. Humainement, elle terminera un petit peu en queue de poisson, malheureusement.
Ouais.
Tu as ensuite entraîné pour la Fédé Caro Garcia quand elle avait 17 ans. Elle est passée de la 200e à la 132e place mondiale avant que son père décide de l'entraîner à temps plein. À partir de 2012, Louis Borfiga, l'équivalent du DTN au Canada, t'appelle pour te proposer un projet avec Vasek Pospisil. Tu t'engages avec le Canadien 130e à ce moment-là. Vous irez ensemble jusqu'à la 25e place mondiale en février 2014. Il fait Karawim en 2015 sous ton coaching. Vous arrêtez finalement en août 2016 d'un commun accord. En décembre 2016, donc t'enchaînes, pas arrêté.
Il y a juste une petite chose, mais c'est vrai, c'est par rapport à Bacek. Il est monté numéro 4e mondial en double, tu vois, et vainqueur au Wimbledon. C'est, enfin, pour lui, hein, par rapport, c'était un très bon joueur de double, il y a quand même voilà, cette petite.
Ouais, bien vu. En décembre 2016, tu deviens l'entraîneur de Félix Auger-Aliassime aux côtés de Guillaume Marx. Il est 600e à cette époque. En 2017, Félix gagne deux challengers à Séville et Lyon et devient à 17 ans et un mois le plus jeune joueur depuis Rafa à intégrer le top 200. Il y a eu du chemin de parcouru puisque Félix était déjà 17e à son meilleur en octobre 2019. Et a priori, sa marge de progression est encore assez grande. Tu dis que ce qui te manque le plus à l'étranger juste après ta femme et tes enfants, c'est la bonne baguette française. Est-ce qu'on doit absolument ajouter quelque chose à ta présentation? Est-ce que j'ai oublié quelque chose de majeur?
L'essentiel est là.
Ok, mais tant mieux. Est-ce que tu peux nous représenter le cadre et nous dire comment t'es arrivé au tennis? Pourquoi t'as choisi ce sport-là?
Bah en fait, mon père était joueur de tennis, tout simplement. Il était 15-2. Donc, je le suivais voilà, au départ au club de tennis. J'ai beaucoup joué au mur. C'était à l'époque où, effectivement, les parents… Il y avait beaucoup de monde dans les clubs. J'avais commencé donc, au tennis club Béarnais à Gelos, donc à côté de Pau. Et il y avait beaucoup de monde à l'époque. Les week-ends, à la limite, des fois, les familles allaient manger, passaient tout le week-end dans le club de tennis. Les enfants jouaient. Donc, je fais beaucoup de murs. Et j'attendais que mon père finisse sa partie de tennis pour lui demander de jouer en plus, de faire du rab. Et ça a commencé comme ça, en fait.
Et au classement français, quelle a été étape par étape ta progression?
Donc, en fait, les premières grosses étapes de la progression, lorsque j'avais 10 ans, il y a eu les premiers rassemblements boursiers, parce que dans les années 78-79, il y avait des bourses, ils appelaient ça des bourses fédérales, c'était Jean-Paul Lotte, donc il donnait des bourses dans les régions pour avoir donc pour que les professeurs puissent entraîner les bons éléments de chaque club. Ouais. Il y avait eu un rassemblement à la Grande Motte, je me souviens, donc ça c'était en 1980. Et donc j'avais à gagner ce premier rassemblement des boursiers dans mon année d'âge, quoi. Et là j'étais monté 32. À travers ça, ensuite j'ai intégré le Pôle France de Poitiers. Okay. Voilà, en 1981.
À quel âge?
Donc j'avais 11 ans, c'était à 10 ans et demi, donc c'était en septembre 81.
Oh, ouais.
Septembre 81, c'est ça, j'avais 11 ans. Ouais, sixième, quoi. C'était un peu tôt. D'ailleurs, après, ils ont reculé l'âge d'entrée dans les pôles parce que ça fait un peu jeune. Quand je vois que ma fille ou mon fils, quand ils avaient ces âges-là, c'est vrai que ça fait très tôt, quoi. Et d'ailleurs, bon, c'était pas facile parce que bon, il y a la séparation familiale. Voilà, même si on est content, on va faire du tennis, mais c'était pas une période facile. Donc, j'ai dû monter 15-5, je me rappelle, fin 81.
Ouais.
Et ensuite, donc, j'ai fait trois années au Pôle France à Poitiers. Ensuite, l'INSEP. L'INSEP pendant deux ans et par contre donc en fin 86 j'ai décidé de quitter le système fédéral et de monter ma propre équipe à Pau, quoi, avec mon entraîneur, mon préparateur physique, voilà. Et là à l'issue donc j'ai été champion de France cadet, puis j'ai gagné le critérium qui m'a permis de monter en première série à 17 ans.
Donc de 15-5, t'es monté combien après?
Ouais, donc là, après pour reprendre le classement, donc 15, ma pression ça a été donc 32, 15-5, ensuite 15-3.
Ouais.
15 et 2-6, je me souviens, j'étais 2-6 en minime deuxième année.
Okay. Donc
quand j'ai gagné les petits âges, c'était à 2-6.
Ah ouais, très propre, parce que c'est quoi? C'est 14 ans, c'est moins de 14.
Voilà, c'est 14 ans. Ouais, j'ai gagné les petits âges en 84, donc je suis né en 70, donc c'est à 14 ans.
Ouais.
J'étais à 2-6, par contre j'ai fait 2-6, j'ai stagné, donc l'année en KD1, j'étais 2-6, KD2, moins 2-6.
Ouais.
Moins 4-6 pour un junior 1 et voilà, et à la fin de l'année, donc comme j'ai gagné le critérium, je suis monté à 17 ans, je suis monté en première série, numéro 28, je me souviens bien.
Tu as joué beaucoup de juniors à ton époque ou tu as tout de suite basculé rapidement sur le circuit?
Mais en fait, à l'époque, comme j'étais pas dans le système fédéral, donc je n'ai pas fait tous les tours à junior, à part j'ai fait juste Roland Garros junior, quoi. Parce que ouais. Bon, en n'étant pas dans le système fédéral, t'es pas pris dans les groupes, t'as pas les aides financières à l'époque, c'était pas organisé comme maintenant. Donc, en fait, moi, j'ai tout de suite fait des… à l'époque, ça s'appelait des satellites.
Ouais.
Voilà, donc, j'ai tout de suite commencé. Quand je suis monté en première série, donc à 17 ans, 18 ans, ça a été mes premières années. Donc, c'était les circuits satellites. Et à l'époque, c'était 5 semaines. Il y avait 4 tournois et un master à la fin, à la 5e semaine.
Tu te souviens juste d'une anecdote à Roland Junior, quand tu as participé?
Ouais, je me souviens à Roland Junior. D'ailleurs, j'avais joué le double avec Cédric Kioline on n'avait pas fait une belle prestation. On s'était fait laminer, je me rappelle. On était tous les deux en dehors du système fédéral à l'époque, là. Donc, je me rappelle, on avait joué en double. Et c'est vrai que en fait, comme je n'avais pas joué depuis les chemins de France, je n'avais pas joué à Roland-Garros. J'avais jamais été, en fait, voir un match de pro à Roland-Garros.
Ouais.
Et là, c'est vrai qu'on sentait une certaine pression, quoi. Je me rappelle, j'étais assez tendu, quoi. Ça, c'est vrai. J'ai perdu sur un joueur brésilien que j'avais revu après sur le circuit, mais qui était monté à la 200e place, qui s'appelait Jabali. Et je me rappelle, j'avais perdu au deuxième tour, mais j'avais pas bien joué. C'était pas de bons matchs.
Du coup, tu quittes l'INSEP et le système fédéral parce que tu en as un peu marre de ce fonctionnement. C'était quoi l'idée?
Ouais, là, j'avais décidé, donc après la deuxième année de l'INSEP, pour moi, c'était l'éloignement familial était difficile. J'étais un peu blessé, mais c'était un peu lié parce que voilà, le moral n'était pas bon. Et puis, j'avais l'opportunité de faire ça à Pau. J'avais donc l'entraîneur de mes débuts qui m'avait formé avant que je parte à Poitiers. Ouais. Qui a montré son club, où il commençait à y avoir des jeunes de la région, il y avait quand même des joueurs négatifs et tout. Donc, on pouvait vraiment réellement partir sur un projet, voilà, de tenter l'aventure. Donc, moi, j'étais très content de rentrer chez moi et de partir comme je voulais vraiment être professionnel de tennis. C'était mon projet qui était toujours aussi fort. Mais là, donc, j'ai pu changer ma base et ça m'a donné un bon élan, un élan positif. Donc, j'étais bien chez moi, bien dans ma peau. Et là, à partir de là, on a pu construire des bonnes choses.
Tu rêvais de quoi un peu secrètement? Tu disais ton projet professionnel, c'était quoi vraiment ton Graal?
Ouais, en fait, c'est vrai qu'à l'époque, le Graal, déjà, je me souviens bien, c'était quand même de rentrer dans les 100 premiers mondiaux, c'était la grosse étape, quoi.
Ouais.
C'est la grosse étape parce qu'il n'y avait pas de, voilà, on n'avait pas de culture de comment ça se passait sur le circuit, de connaître que comme maintenant, là, les jeunes, ils savent comment se passe le circuit, le nombre de tournois, voilà, évidemment, d'être un jour de gagner un grand chelem, mais ça c'était un peu loin, c'était surtout plus près, c'était de voilà d'être un joueur professionnel, de jouer les tournois et de rentrer dans les 100 premiers, c'était surtout ça.
Et ton premier tout premier point ATP, tu t'en souviens, tu peux nous le raconter?
Ah ouais, je m'en souviens très très bien. Donc on est parti, ben à l'époque où il n'y avait pas trop de structure, on savait qu'il y avait des tournois, donc j'étais parti on était parti en Espagne, il y avait des 4 tournois, donc c'était 5 tournois à l'époque dans les circuits satellites en Espagne, autour d'Espagne. Et il y avait 5 ou 6 tours de qualif, je me rappelle. C'est arrivé, c'était la faune. On arrivait là, il y avait un nombre incalculable de joueurs. Et d'ailleurs, dans les qualifs, il y avait Renzo Furlan, voilà, qui était rentré aussi dans les 50 premiers. Karaty aussi, Cristiano Karaty. Enfin, il y avait des joueurs connus qui étaient entraînés d'ailleurs par Piatti, qui était l'entraîneur de Lubici, qui est maintenant du jeune italien, du jeune espoir, la Sinner, qui l'entraînait déjà, donc un groupe d'Italiens, c'est le souvenir. J'étais avec d'autres joueurs de l'époque, voilà, des Français, Olivier Soulès, Thierry Guardiola, Guillaume Raoult, voilà, on était en Espagne et j'avais passé donc ces 5-6 tours de qualif et pour prendre un point, il fallait donc passer un tour dans le tableau final. Donc j'avais passé dès le premier tour dans le tableau final. Donc voilà, en passant le premier tour du tableau final, tu avais ton premier point ATP, donc j'étais super content. Là, tu avais un classement, tu pouvais regarder, tu étais 1000 et quelques, je ne sais plus à l'époque.
Énorme. Dans ta 10 mag, tu regardais ton…
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. On attendait le Tennis Mag et un peu plus tard, après, c'était sur l'équipe. Il faisait un point hebdomadaire sur les classements.
Ah, très bon ça. Comment tu as vécu cette traversée un peu de la jungle, à cette époque-là, des satellites, mais après des challengers?
Ouais, mais de toute façon, la difficulté, c'était vraiment essentiellement pour moi, c'était les satellites parce que toujours pareil, en dehors du système fédéral, donc il n'y avait pas d'aide quoi, à l'époque. C'était voilà, un peu chacun pour soi. Soit tu étais à la fédération et tu avais des entraîneurs et tu avais une structure qui te soutenait. Ou alors, si tu étais en dehors, c'est pas comme maintenant où on pouvait être en dehors du circuit. Et là, il y avait vraiment, je dirais pas, c'était pas la guerre, mais c'était la compétition quand même. Je me rappelle une anecdote, malgré tout, c'est que par exemple, l'année où j'étais junior, donc j'avais gagné junior deuxième année, j'avais gagné le critérium donc en première année, j'étais junior 2, j'étais en première série, j'étais le meilleur classé de mon année d'âge. Et je me souviens, je n'avais pas eu, par exemple, la wildcard à Roland-Garros tableau final, alors que quelqu'un comme Guillaume Raoult, c'était à la fédération, lui, il avait eu une wildcard. Donc, il y avait quand même une certaine compétition entre le système fédéral et les autres. Ça c'était certain. Et donc, pour en revenir, par rapport au fait d'aller sur le circuit satellite, ben voilà, c'est moi qui payais mon entraîneur, mes frais, etc. Donc, je n'avais pas plus de moyens. Heureusement, j'avais quelques sponsors parce que j'étais très bon, très fort jeune, quoi. J'avais gagné les petits as. J'étais monté très vite en première série, donc on avait un peu de moyens pour le faire, mais c'était de la débrouille, quoi.
C'était un débrouille vraiment, voilà, à t'affranchir de ce système fédéral, non?
Avec Pioline en tant que, par rapport aux garçons, ouais, de joueurs qui soient sortis du système fédéral. Ouais, j'étais dans les premiers et surtout après avoir un peu réussi chez les garçons en dehors du système fédéral. Quoi.
Ouais.
Un rapide break pour vous dire que Fabrice Barrault, notre statisticien préféré, accompagne Félix Auger-Aliassime depuis le début de la saison pour lui faire gagner de précieux points. Et si vous aussi, vous voulez progresser dans votre jeu avant que les tournois reprennent, on a tourné 4 clés avec Fab, vous permettant d'apprivoiser vos forces grâce à la stat. Elles sont en accès libre et gratuit juste en dessous en description. Allez, c'est parti, on y retourne.
Comme sponsor, t'avais quoi comme structure
À l'époque, voilà, j'avais Lacoste et au niveau de la raquette, c'était Rossignol. Et puis il y avait des entreprises locales, on avait fait le tour. Mon père s'était occupé, avait fait un peu le tour des commerces pour faire une espèce d'affiche, etc., pour que je puisse avoir un peu d'argent. Voilà, c'est la SCREG, c'était des équipements routiers qui étaient au niveau local ici, là. Donc, ouais. Je pense qu'il n'y a plus qu'il a voulu être racheté par une autre entreprise. Mais eux, c'était mon plus gros sponsor, c'était eux. Quoi. Et bon, voilà, ça m'a vraiment permis de faire mes 2 années là. Voilà, mes 2 années sur le circuit satellite où on ne gagne vraiment rien. Et il y a des déplacements. Et après, forcément, la phase c'est mieux faite parce que je suis monté rapidement en 4 centièmes.
Ouais.
Voilà, 4 centièmes mondial rapidement. Et là, par contre, en étant 400e, voilà, je me souviens plus exactement dans les détails, mais je sais qu'un peu voilà, financièrement, j'ai eu un peu plus de sponsors parce que 400e, ben, je vais être alors que je fasse un peu un compte à bourse, je suis monté 59e à 21 ans, j'étais 180 à 20 ans et j'étais 220 à fin 19 ans.
Tu avais de bons temps.
Donc là,
t'es pas 21 ans,
ouais.
T'étais pas en retard.
J'avais des très bon temps de passage, donc c'est pour ça que ça m'a permis quand même d'avoir du sponsoring là, voilà, pour les passages satellites, Challenger. Bon, puis après, une fois que tu passes un Challenger, déjà tu peux être presque un peu autosuffisant, surtout qu'à l'époque c'était pas comme maintenant, c'est à dire qu'il y avait vraiment que le top 50 ou le top 30 qui avait son coach qui suivait sur le circuit, quoi.
Ouais.
Donc là, forcément, après je te raconterai quelques anecdotes aussi sur les Challengers, mais là, les challengers, voilà, au niveau challenger, même quand j'étais centième, c'était très rare que mon entraîneur vienne sur les tournois, quoi, parce qu'on n'avait pas les moyens, le price n'était pas comme aujourd'hui, quoi.
Mais justement, j'allais y venir. Quelles ont été tes pires galères sur ce circuit un peu compliqué parfois à gérer?
Alors là, la chose la plus incroyable, c'était que donc j'étais 200, voilà, je devais être 220e, donc j'avais 19 ans. Et Thierry Guardiola, qui était à peu près au même classement, il devait être 280e. Thierry Guardiola était voilà, aussi un bon joueur français qui avait un an de moins que moi. Ouais. Et on décide à l'époque d'aller faire une tournée au Brésil, une tournée Challenger au ouais. Brésil. Et là, effectivement, à l'époque, tu sais, à l'ATP, tu faisais les inscriptions dans les tournois. Ce n'est pas comme maintenant avec les applications et sur Internet. Tu envoyais un fax ou tu appelais pour t'inscrire. Et les renseignements des tournois, tu les recevais par fax. Où tu les prenais parfois dans les tournois, tu ne les avais pas automatiquement. Et nous, comme c'était la première fois qu'on allait jouer un challenger à l'étranger, et d'autant plus au Brésil, on avait regardé, ok, il y avait un challenger à Campos de Jordão, je me rappelle, à Linz, et après à Sao Paulo. Donc, on avait regardé la carte du Brésil, et on avait vu Campos. Okay, on avait vu la ville Campos, donc on croyait que c'était là où était le tournoi. Et c'était au sud de Rio. Donc, on prend un billet d'avion pour arriver à Rio, donc on arrive le mercredi parce que Thierry Guardiola était en qualif pour jouer le samedi et moi j'étais dans le tableau final, je jouais le lundi. Donc on arrive le mercredi à Rio, le mercredi soir à Rio, puis là on prend un bus parce que en fait au Brésil il n'y a pas de train, c'est des gares routières en fait, c'est des gares de bus, c'était très bien fait à l'époque, hein, en 89, c'était ouais. Des gares de bus et tu prends des bus pour aller d'une ville à l'autre. Donc on arrive à Rio, on atterrit, on prend un bus. On arrive à Campos, on prend un taxi pour aller au tennis club de Campos. On avait l'adresse, mais en fait, le taxi disait non, mais je ne comprends pas cette adresse, les trucs. Donc, je vais vous emmener dans un club de tennis, là. Et en montrant l'adresse du club de tennis avec le fact sheet de l'ATP, le gars lui dit mais là, vous n'êtes pas du tout Campos de Jordão, c'est pas du tout ici, quoi. C'est carrément au nord de Sao Paulo. Sao Paulo, c'est à 8 heures de bus de Rio. Et après, tu vois, donc 8 heures de bus, et après de Sao Paulo, vous devez encore faire 3 heures de bus pour arriver à qui est dans la montagne, c'est un tournoi dans la montagne. Donc, du coup, il a fallu refaire marche arrière, prendre un bus pour aller à Rio, reprendre un bus pour aller à Campos de Jordão. En fait, on est arrivé le samedi, mercredi matin, on est arrivé mercredi soir donc, au tournoi, mais en fait, on est arrivé samedi à l'autre tournoi. Et donc, Thierry Guardiola est arrivé en retard pour signer pour les qualifs. Moi, ouais. J'ai pu jouer. Et on s'est retrouvé, on croyait qu'il faisait chaud, on s'est retrouvé, en fait, c'était en montagne, ce tournoi-là, il faisait super froid. Putain. Et le dernier truc incroyable, c'était, en fait, on avait tous les deux des visas, des crédits de carte, des visas. Et dans cette zone-là, ils acceptaient que la Mastercard. Donc, on a réussi un peu à survivre avec mon price money. On avait une avance sur mon price money dans le Challenger pour pouvoir payer les hôtels, les restos et tout. Voilà le bon souvenir.
Le Challenger, incroyable. Incroyable. Ton meilleur souvenir sportif sur ce circuit secondaire, c'est lequel?
Ouais, ben je dirais, c'est quand j'ai le premier en satellite, quand j'ai gagné une épreuve de satellite à l'époque, dans un tournoi, c'était à Pau. À l'époque, il y avait une étape à Pau, ouais. dans le circuit en France, qui était, de mémoire, il y avait Pau, Montauban, et après on remontait vers le nord avec Saint-Malo. Et donc là, j'ai gagné chez moi, voilà, mon premier tournoi entre guillemets professionnel, quoi. C'est une étape du circuit, voilà. Et après, bon, j'ai commencé à bien jouer dans les challengers, donc à partir de 20 ans. C'est venu plutôt l'année après, en 91, où j'avais gagné un challenger en battant Carlos Costa en finale. Ouais. C'était le premier challenger que j'avais gagné.
C'est à ce moment-là que tu sens que tu exploses un peu, non?
Ouais, là, j'ai progressé régulièrement d'année en année. Mais voilà, c'était un travail personnalité, j'étais bien dans ma peau, j'étais bien entouré, je travaillais bien. Donc là, mon potentiel s'est concrétisé rapidement, enfin régulièrement et plutôt rapidement, parce que bon, 59e à 21 ans, c'est plutôt précoce quand même. Et donc là, j'avais une bonne équipe qui croyait en moi, on a fait quelque chose de personnalisé, donc voilà, ça a bien fonctionné. Et puis donc là, ça s'est confirmé dans mes résultats, dans ma progression tennistique, dans ma progression physique. Ouais. Il y a eu une accélération en 91 avec vraiment la confiance et surtout par rapport à des qualités physiques que j'ai développées là, à ce moment-là. Il y a eu un bon travail physique de fait avec un préparateur physique qui s'est d'ailleurs occupé de Jérémy Chardy aussi après, que j'ai formé. Voilà. Donc là, la bascule s'est faite à ce moment-là.
Tu peux nous raconter le tournoi de Palerme, nous faire le film en condensé, mais nous raconter quand même.
Ouais. Donc voilà, tout est monté crescendo et à partir de l'été 91, donc j'ai gagné ce challenger. J'ai fait une finale quand même avant, c'était ATP 250 de Saint-Marin qui n'existe plus maintenant. Okay. Perdant sur Perez Roldan, où c'est là où il y a eu le déclic, la confiance. J'ai produit un très bon niveau de tennis, j'ai battu des joueurs top 20 régulièrement. Et boum, et ça a enchaîné derrière par une victoire à Palerme en septembre. Voilà. Et d'ailleurs, comme je te disais, là, on est bien sur la case. Je voyageais, j'avais pas mon entraîneur, je voyageais avec ma copine de l'époque qui est devenue ma femme. D'accord. Donc là, forcément, j'étais très bien, des bonnes dispositions psychologiques, bien préparé. Et là, en fait, avec la confiance, avec le travail, tout est monté rapidement. Avec un peu de... Parce qu'après, effectivement, je n'ai pas réussi à retrouver cette alchimie. J'enchaîne un peu sur le truc, mais bon, je te laisse.
La semaine du titre à Palerme, elle devait être assez belle. Mais je voulais avoir un peu savoir comment ça s'était passé là-bas et puis comprendre dans la foulée pourquoi finalement tu t'es arrêté, entre guillemets, à ce 50e rang mondial. Quoi. Qu'est-ce qui t'a... freiner, stopper, je sais pas, c'est assez étonnant.
Donc écoute, là, ce qui est effectivement Palerme, c'est super, tu gagnes un tournoi, même à l'époque, on a gagné un tournoi, il n'y a pas beaucoup de Français, même maintenant, on doit être une trentaine ou entre 25 et 30 à pouvoir gagner des titres sur le circuit. Donc là, c'était vraiment le pic du souvenir de ma carrière de joueur. Hein, là,
un 12e mondial en finale, enfin, c'est énorme quoi.
Voilà, il y avait Yannick Noah qui est perdu en quart juste avant sur Arezé, après moi j'ai battu Arezé en demi, donc bon, c'était l'année de la Coupe Davis aussi où on était en balance. C'est que Yannick avait choisi, donc je faisais partie dans la liste pour la finale quoi, à Lyon. Donc il avait pris plutôt deux lettres, il avait laissé de côté, je crois, c'était Pioline et moi pour la finale à Lyon. Donc c'était deux lettres, Santoro qui avait été mis dans l'équipe, donc il était en balance parce que tout le monde avait eu des très bons résultats. On était à cette époque-là, il y avait une grosse densité dans les 60 premiers mondiaux là, au niveau des joueurs français, Pioline, Butch, Raoux, Santoro, voilà, deux lettres, Noah, Forger, enfin Noah était sur la fin, mais il y avait encore Forger, Lecomte. Donc c'était très dense. Et donc là, voilà, c'était vraiment ma plus belle année, voilà, en tant que joueur professionnel. Et après, c'est toujours pareil, c'est plus facile d'analyser après pourquoi j'ai pas réussi à maintenir ce niveau ou aller plus haut, mais surtout à maintenir ce niveau-là. Bon, c'est plus facile, voilà, maintenant que je suis entraîneur. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que j'étais pas, tout simplement pas assez fort pour pouvoir pas assez fort sur le moment pour pouvoir mettre les adaptations ou créer l'environnement nécessaire autour de moi pour continuer à, voilà, pour, à maintenir ou voir progresser. Donc ça, c'est la première chose. C'est, voilà, c'est moi, ma, personnellement, je n'étais pas assez armé pour m'adapter et créer l'environnement autour de moi, faire des changements qui auraient été nécessaires. Ouais. C'est qu'en fait, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'avec le recul, en fait, toutes les personnes qui m'entouraient, c'était des personnes qui découvraient, comme moi, un peu le circuit professionnel et le tennis professionnel. Donc, ouais. Moi, par exemple, mon entraîneur, il avait son club de tennis, mais donc il pouvait pas se libérer pour être avec moi. Il avait beaucoup, il était très occupé. Et moi, j'ai pas réussi, on n'a pas réussi à créer la situation pour qu'il puisse me suivre plus. Donc, ça fait que, et ça, c'était un peu toujours tout autour, que ce soit l'aspect kiné, physio, et comme j'avais quand même un physique. Voilà, qui était j'étais un joueur de fond de cours très régulier, mais avec un physique qui n'était pas forcément super endurant et costaud. Il aurait fallu faire un travail un peu plus personnalisé, continuer à avoir un entraîneur pour pouvoir continuer à développer mon tennis, continuer à travailler. En fait, j'ai basculé dans ce que font souvent l'erreur, et surtout à l'époque où il y avait moins de moyens. Même si tu rentres dans les 100 premiers où j'avais gagné un tournoi, tu as plus de moyens, mais pas suffisamment malgré tout pour te faire suivre par de la compétence, quoi. Et en fait, j'ai basculé dans le fait de rester trop dans la course au résultat plutôt que de suffisamment continuer à développer mon tennis et voilà, ainsi de suite. Donc voilà, avec une petite erreur et un mauvais timing, c'est-à-dire que j'ai dû faire quand même en fin 91, l'année où j'étais monté à 50, j'ai dû en fait faire mon service militaire. À l'époque, c'était au bataillon de Joinville, même si c'était adapté, c'est-à-dire qu'on faisait un mois de classe au mois de décembre. Et après, on revenait faire des classes durant l'année. Mais dans mon cas, comme j'avais fait une année très éprouvante, j'étais monté, il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Je n'ai pas pu faire justement mon repos, mon travail hivernal. Et ça fait que je me suis blessé tout de suite l'année en 92. Je n'ai pas arrêté d'être blessé. Voilà, et de devoir revenir. En fait, je ne pouvais plus revenir à Pau. Il fallait revenir entre les tournois. Il fallait revenir faire les gardes au bataillon de Joinville. Donc, c'était vraiment quelque chose de pas approprié pour un joueur qui est dans le top 60. Et ça fait que je me suis blessé. J'ai perdu confiance. Mais forcément, voilà, les moyens financiers, ça devient plus difficile. Donc, tout ça, c'est un peu mis en place. Et après, je n'ai pas réussi à retrouver cette bonne alchimie, et voilà, en sachant que je voulais rester fidèle à mon équipe. Et jusqu'à un certain temps, après, j'ai basculé, je suis allé sur Paris pour essayer de changer un peu de structure. Mais, entre guillemets, là, j'avais perdu le fil et j'étais sorti trop du processus et j'étais trop dans le résultat. Et à un moment donné, voilà, j'ai pas retrouvé le fil, si ce n'est que tout ça, en fait, donc j'ai navigué entre 100 et 200, quoi, le reste de ma carrière. Mais tout ça, le fait d'être tout seul, d'apprendre, d'avoir ces épreuves, comme je suis quelqu'un qui aime bien réfléchir, j'ai fait ma préparation physique un peu tout seul à un moment donné, à mon entraînement. Tout ça, je dirais, était un bien pour un mal pour un bien et m'a servi en tant qu'entraîneur après.
D'accord, ouais. Ton coup le plus naturel, c'était lequel ?
Le revers. Le revers à deux mains.
Ton plus gros frisson sur un cours en termes d'ambiance ?
Alors, le plus gros frisson, bon, c'est ça, hein, c'est la victoire en finale à Palerme pour gagner le tournoi.
Très bon, ça. Et du coup, tu as eu une sélection en Coupe Davis ou pas ?
Non, j'ai pas eu de sélection. J'étais donc deux fois pas loin, là, donc cette fois pour la finale, puisqu'on était au-dessus d'un moment. C'était Patrice Aljoueur qui nous avait appelé à l'époque, là, parce qu'il était là, c'était là, l'entraîneur de la Coupe Davis, pour me dire que je n'étais pas pris. Donc, c'était là où j'étais le plus proche. Et l'autre année, quand on a joué la Suisse en France, dans les arènes de Nîmes, en 92.
D'accord. Quels étaient les numéros 1 mondiaux de la période où tu étais sur le circuit ?
Alors, j'ai joué Edberg et j'ai joué Stéphane Edberg. J'ai pas joué Sampras, j'ai joué Jim Courier, j'ai joué Bruguera plusieurs fois. J'ai joué Muster quand il était numéro 1.
Ouais.
J'ai joué, que j'ai joué après, qu'est-ce qui était numéro 1 ? C'était Sampras, Agassi, Muster, un certain temps, Edberg. Voilà.
T'aurais une ou deux histoires de choses vécues avec ces légendes un peu du sport, du tennis ?
Mais ouais, tu vois, il y a quelques petites choses qui m'ont marqué. D'une part, c'était Becker, tu vois, quand je me rappelle, en 91, donc, je vais à Tokyo, tu vois, à Tokyo, c'était un tournoi indoor à l'époque, en fin d'année.
Ouais.
Et ce qui m'a un peu marqué, c'est deux attitudes de sa part que j'ai jamais retrouvées, même là, en tant qu'entraîneur, un peu de la part de Lendl quand il est entraîneur, mais tu vois, la façon dont il rentrait 5 minutes avant sur le terrain d'entraînement, par exemple, tu vas mettre un peu de pression pour qu'on finisse l'entraînement. Ou dans les vestiaires, il regardait d'une certaine façon. Moi, j'étais un peu nouveau, j'arrivais, donc forcément, il savait que t'avais joué, hop. Sa façon de mettre un peu mettre la pression à travers des actions comme ça, quoi. Il y a ça pour Becker. Pour Lendl, c'était marrant parce que pareil, des fois on était, tu sais, à l'époque, c'était pas que des transports, chacun avait sa voiture, t'avais des bus, tu vois, où tous les joueurs rentraient, t'avais Edberg, t'avais Lendl, on était dans le bus. Et t'as Lendl, je me rappelle une fois, il y avait un problème de circulation et en fait, il était, contrairement à ce qu'il était sur le cours, il racontait toujours des blagues, quoi. Il était assez marrant, il était très caustique, quoi. C'était le bout en train un peu dans le bus.
Ouais.
Et après, bon, l'élégance, après Stéphane Edberg, voilà, c'était ça, c'était le décalage. Il était très agressif sur le coup, mais quelqu'un de très, très, très gentil en dehors, quoi. Très, très gentil en dehors.
Est-ce que tu te souviens d'une fiesta en particulier que tu as faite sur le circuit?
Non, je ne suis pas du style à... je suis pas du style à faire la fête. Donc, je n'ai pas de souvenirs.
Je suis plutôt très
en famille. Ouais.
Tournoi que tu préférais jouer en 10 ans de carrière?
Alors, les Botois, évidemment. Roland-Garros, voilà, Roland-Garros, c'était... Voilà, quand tu es français, voilà, c'était le plus beau tournoi. Mais après, là où j'ai toujours bien aimé, j'ai beaucoup aimé par rapport à la ville, c'est Rome aussi. Ouais. J'ai un penchant pour Rome aussi.
Rome, ouais, le site est tellement...
Ouais, le site est incroyable. La ville, le site.
Et du coup, comment s'est passée la fin de ta carrière et le fait que tu songes à tout de suite coacher parce que tu as vachement enchaîné direct en arrêtant? Comment ça s'est passé tout ça?
En fait, c'est vrai que ça s'est fait rapide. Enfin, voilà, ça s'est fait à peu près en 6 mois. Bon, ben, là, on est, j'étais sorti des 200 premiers. Voilà, ça, effectivement, ça devient vraiment compliqué financièrement hein, quand tu sors des 200 premiers, même si tu peux, tu sais, à l'époque, tu pouvais jouer des matchs par équipe en Allemagne, en France, tu fais des tournois à tennis pro, on arrivait quand même à gagner sa vie quand même. Hein. Mais à un moment donné, voilà, j'arrivais à 29 ans, donc avec ma copine de l'époque, mais qui est devenue ma femme, pareil, on a pris décision aussi, ben, c'était le moment de se poser, voilà, de fonder une famille. Et donc ça s'est fait naturellement.
T'es lassé un peu du circuit quand même?
Ouais, j'avais l'impression d'avoir quand même fait le tour par rapport à moi. J'avais fait le tour de la question et j'avais pas perçu de levier, toi, pour pouvoir passer, pour revenir dans les 100 premiers, etc. Donc j'ai pas de regrets, et même maintenant et même à l'époque par rapport, tu vois, en ayant fait le tour de la question, ouais. C'était le bon choix.
Ok. Comment s'est passé le rapprochement du coup avec Jérémy, même si vous êtes tous les deux de Pau, donc a priori ça paraît assez évident, mais ce qui paraît fou, c'est de partir d'aussi loin. Enfin, comment tu as accepté ce challenge alors que tu aurais peut-être pu partir avec un joueur déjà dans les meilleurs français? Enfin, j'en sais rien, tu vois, comment ça s'est fait tout ça?
Voilà, en fait, les choses se sont faites naturellement. En fait, là, quand j'ai arrêté, il y avait Emmanuel Curuchet qui était une joueuse qui était 180e à la WTA, qui était de Pau aussi. Et qui m'a demandé de l'aider, de faire quelques tournois avec elle. Donc, ça a commencé comme ça. Et en parallèle, puisque c'était quelque chose qui me trottait dans la tête par rapport à mon histoire personnelle, c'est de créer un petit sport-études pour des jeunes de la région qui n'avaient pas forcément le niveau ou l'envie d'aller dans la structure fédérale. Et donc, de par rapport à mon propre expérience. Donc là, j'ai créé dans le club de mon ancien entraîneur, qui existe toujours, l'académie existe toujours, mais moi, j'y suis plus. Donc, on a créé, en fait, un sport-études dans son club. Donc, on a négocié des petits horaires aménagés avec les lycées et collèges. Voilà, on a fait un peu de publicité. Donc, c'est comme faire une petite entreprise. Et donc, ça a commencé là. Et Jérémy a fait partie de ces premières personnes. Il y en avait une dizaine au tout début. Et donc, ça m'a permis de gagner ma vie, d'apprendre à enseigner. Et puis, en parallèle, voilà, j'ai entraîné pendant quelques temps Emmanuel Curuchet, qui a décidé après ensuite de se marier, de faire des enfants. Un choix personnel, elle a rapidement décidé d'arrêter. Ouais. Moi, j'ai embrayé. En fait, la relation, c'est tout de suite… moi, j'ai trouvé que ce jeune, Jérémy, il avait 11 ans à l'époque. Hein, donc, c'était en 99, il est 87, mais il avait 12 ans. Et donc, il était dans l'académie. Et j'ai trouvé qu'il avait des qualités et surtout l'envie. Mais bon, voilà. Et donc là, je me suis investi en dehors de mon académie. Je me suis investi pour essayer de mettre en place déjà un projet de haut niveau sur un jeune qui avait des qualités et qui avait l'envie de mettre un peu déjà ce processus en place.
Ouais.
Et ça a très bien matché avec lui, avec ses parents. On a discuté, on a mis tout ça en place. Et donc moi, en parallèle, voilà, j'avais mon académie.
La route a été hyper longue, ça a duré 11 ans avec Jérémy. Est-ce que tu peux nous donner les 2-3 souvenirs sportifs qui t'ont le plus marqué?
Ouais, effectivement, bon, les gros souvenirs, c'est quand il gagne Wimbledon Junior. Ça, c'était ouais. Le plus gros souvenir. Wimbledon junior, bon, voilà, ça, c'était un super souvenir.
Et puis, effectivement, quand il bat qui au passage en junior?
Il bat Robin Haase en finale.
Ouais.
Ouais, après, il y avait Donald Young qui était très fort à l'époque. Il avait joué des joueurs à l'US Open. Il avait battu Cilic. Il avait perdu en finale de l'US Open junior aussi, mais il avait battu Cilic. C'était les meilleurs. C'était Cilic, Donald Young.
Il termine l'année combien, junior?
Le troisième.
Et à ce moment-là, tu sens que ça peut causer fort sur le circuit ou tu restes quand même incertain à te dire c'est un autre monde, il ne faut pas s'emballer quoi.
Non, là déjà, là on voit, puisque le projet est parti, voilà, est parti de loin, donc vraiment le projet sportif, voilà, par contre là, moi, j'ai mis en place voilà, autour de lui des compétences, de l'expérience en termes de kiné, de physio déjà très tôt, c'est-à-dire que les éléments qui vont faire que le jeune va pouvoir voilà, se développer physiquement dans sa technique, dans sa tactique, et puis surtout le fait de pouvoir évoluer, s'il en avait le souhait, de pouvoir continuer sur le circuit professionnel. Et je savais très bien que, bon, et à cette époque-là, contrairement à mon époque, mais là, c'était Patrice Dominguez, nous, il nous a aidé à partir du moment où Jérémy a eu ses résultats en junior, il nous a aidé financièrement pour qu'on puisse faire la bascule et partir tenter notre chance sur le circuit professionnel. Ça, c'était un élément déterminant.
Il met une sorte de bourse à disposition, finalement, c'est ça?
C'est ça, voilà. C'était je crois le premier vraiment à mettre les moyens sur des projets individuels en dehors du système fédéral. Et ça c'était bien parce que comme ça Jérémy il a toujours le choix, il a eu le choix d'aller à Poitiers, d'aller à l'INSEP, mais il a toujours préféré parce que bon, d'une part parce qu'effectivement voilà il y avait une relation de confiance, il avait des résultats, etc. Et donc là avec cette aide fédérale, ça nous a permis, comme il a bien joué en junior aussi et il a eu des sponsors, donc ça nous a permis de basculer de tenter notre chance à partir du moment où on était d'accord l'un et l'autre sur le circuit professionnel. Et là effectivement ça a été assez rapide aussi hein, dans son cas puisqu'il a gagné, il est entré dans les 100 en 2008. Ouais, c'est ça, en 2008, puisqu'il fait 8e à Roland-Garros et il gagne le tournoi de Stuttgart. Ouais. Son premier titre, ben, pour l'instant son seul, j'espère qu'il en aura d'autres, mais son titre à Stuttgart.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses lui avoir, même si c'est un peu dur à isoler, parce que quand tu pars de 15-5, tu as l'impression que tu as tout appris au mec, mais l'essence de ce que tu penses lui avoir appris, c'est quoi?
Ben, c'est ça, c'est-à-dire que l'entraîneur, tu vois, l'entraîneur, quand il fait de la formation, donc on va dire, même si l'entraîneur formateur, il est important parce qu'en fait, le jeune, il est à l'écoute, tu vois, il est à l'écoute, c'est une éponge. Donc là, les belles années avec un jeune joueur pour des entraîneurs, tu vois, passionnés, c'est entre, voilà, quand ils sont jeunes jusqu'à qu'ils soient juniors, jusqu'à avant qu'ils soient sur le circuit pro, même s'ils sont toujours en formation, mais le gros de la formation, il se passe là. Donc là, par rapport à mon expérience d'ancien joueur, j'ai mis en place les éléments autour de lui, c'est-à-dire que d'avoir un bon préparateur physique en relation avec qui comprennent le tennis, d'avoir un suivi très tôt au niveau ostéopathique, ça c'est très important pour éviter les blessures. Et on le voit maintenant, c'est un joueur qui fait une belle carrière, qui est constant et qui est encore dans les 50 premiers et qui a aujourd'hui, Jérémy, il est né en 87, donc il a 33 ans, donc il a fait quand même une BK, donc ça veut dire que voilà, les choses ont été bien faites, donc c'est ça, c'est cette. Et puis des qualités, voilà, mettre en place le processus technique, voilà, qui soit pas limité techniquement, même si à l'époque certains entraîneurs me disaient, ben, avec sa prise fermée en coup droit, il arrivera jamais à jouer sur herbe ou à jouer à un certain niveau. Donc moi, par rapport à ça, je veux dire, j'ai réussi à mettre en place tout ce processus qui lui a permis au moins de pas le couper du très haut niveau. Et après, l'avenir nous a donné raison, c'est-à-dire qu'il ça a été un joueur professionnel et il a fait une longue, jusqu'à ce jour, il a fait, qui est pas, sa carrière n'est pas finie, il a pour l'instant fait une longue carrière. Quoi.
Et toi, qu'est-ce que tu as appris à son contact?
Bon, moi, c'est génial parce que toujours pareil, l'entraîneur, il va exister que s'il a un joueur qui a des qualités, hein. Même si, effectivement, si tu mets un joueur avec des qualités, un joueur jeune avec des qualités, bon, avec mon expérience maintenant, puisque j'ai quand même eu d'autres expériences après Jérémy, l'entraîneur, il fait quand même des différences. Mais si tu n'as pas, un athlète qui a des qualités suffisantes, que ce soit mentale ou physique, bon, c'est sûr que c'est plus difficile. Donc, Jérémy, j'ai eu la chance qu'il ait ses qualités athlétiques, qu'il ait eu envie de s'inscrire dans un projet, que son entourage aussi était d'accord et m'ont fait confiance. Donc, moi, j'ai appris. Donc ça c'était la première condition et après moi j'ai appris j'avais mon expérience d'entraîneur, ma réflexion quand même, déjà quand j'étais joueur j'étais déjà en réflexion en tant qu'entraîneur et j'ai beaucoup appris, surtout à enseigner, c'est-à-dire qu'en même temps que je formais Jérémy, j'ai appris parce que c'est pas le fait d'avoir simplement été un ancien un joueur de haut niveau. Pour moi, ça suffisait pas. C'est pour ça que, comme j'ai eu des propositions d'entraîner directement des joueurs sur le circuit ou de travailler à la fédération, j'ai préféré faire la démarche de créer ma propre entre guillemets académie avec mon ancien entraîneur, d'apprendre le métier technique. Et ça, avec le passé maintenant, ça m'a beaucoup servi là dans mes aventures futures. C'est-à-dire, j'ai été capable, comme j'ai appris le métier d'enseignant, parce que c'est un métier, le métier d'enseignant, d'apprendre à changer techniquement un coup, voilà, d'apprendre tout le processus, ça m'a donné une force par rapport à d'autres entraîneurs qui n'avaient pas eu ce cursus-là.
Et comme tu étais éloigné la plupart du temps sur le circuit, tu avais mis des profs référents dans ton académie, comment elle tournait en ton absence?
Voilà, c'est ça. Donc ça a été la problématique. C'est-à-dire, bon, on n'était que tous les deux, donc avec Jean-Louis Ransouzo, donc ancien entraîneur. Et après, la bascule s'est faite à partir du moment où j'ai dû être à plein temps avec Jérémy sur le circuit professionnel. C'est-à-dire qu'il est rentré là dans les 100 premiers. Et là, bon, là, c'est, pour moi, c'était difficile, surtout dans le contexte économique en France à l'époque où, bon, la fédération était omniprésente. C'est difficile d'avoir maintenant, il y a un peu plus d'ouverture, il y a plus d'académies un peu privées, parce que, voilà, la fédération délègue un peu plus. Mais à l'époque, là, c'était difficile. Donc, j'ai eu un choix à faire. J'ai eu un choix à faire, voilà, entre le fait de pour rester dans mon académie, de trouver des personnes, de tout structurer. Donc, j'ai estimé que l'énergie allait être mieux utilisée si je me concentrais vraiment, parce qu'on avait c'était une aventure un peu exceptionnelle. On est le seul duo en France de partir de 15-5. Je dis en France, chez les hommes, hein, chez les filles, ça a été fait, ouais, avec Nathalie Tosia et certains autres. Mais en France, on est le seul duo de 15-5 à 31e mondial. On est le seul en étant dans un hors système fédéral. J'ai tenté ça parce que ça valait le coup, quoi. Voilà, ça valait le coup et de focaliser mon énergie sur ça.
Et t'arrives à ne pas être rancunier de la fin de notre histoire ?
Mais écoute, comme dans toute séparation, il faut être lucide. Hein. Il y a des fautes des deux côtés. Il y a eu des erreurs des deux côtés. C'est assez important. Bon, après, c'est toujours. Personne ne veut en arriver. C'était tellement une belle histoire, c'est-à-dire de partir de 15-5 en France. Tu fais pas ça. Tu sais, tu parles avec n'importe quel entraîneur. Allez, ok, ils disent ouais, mais c'est facile. Jérémy, il avait des qualités, Chardy, etc. Mais bon, allez, ok, faites la même chose. Prenez un gamin à 11 ans, organisez-vous financièrement et familialement, ouais, pour le faire, pour prendre le risque d'arrêter ton académie et de partir avec le jeune sur le circuit sans garantie. T'as une famille à nourrir, etc. Voilà. Faites-le, mais après on en reparle. Donc voilà. Donc moi, ça s'est mal terminé. C'est vraiment dommage parce que c'était une aventure qui est vraiment partie sur des bases humaines. Et c'est de toute façon dans le sport, si t'es pas passionné, si t'es pas dans une base humaine, tu peux pas réussir. Et l'aspect financier, on y a pensé parce que ça s'est pas fait comme ça du hasard. On a essayé à tous les stades de faire ce qu'il fallait pour que ça soit un système où le joueur il n'a pas de pression financière.
Ouais.
Donc, on était vraiment payé qu'au résultat. Mais malheureusement, on a été un peu victime. C'est-à-dire qu'à l'époque, on s'est protégé, puisqu'on a fait un contrat, on s'est protégé l'un l'autre par un contrat. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ce contrat était peut-être un peu surprotecteur. Mais quand on regarde l'ensemble, et c'est pour ça que le procès, entre guillemets, m'a donné raison. Donc j'ai gagné le procès. Parce qu'à un moment donné, les éléments étaient quand même malgré tout en faveur du joueur. Quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, même si le joueur, quand Jérémy est rentré dans les 100 premiers mondiaux et qui paye une certaine somme, mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été investi avant. Et quelque part, voilà, les points de friction se sont passés là et sur l'aspect contrat. Mais la détérioration n'est pas venue complètement de l'aspect financier, pas du tout de l'aspect financier, ça a été plutôt... d'un aspect relationnel au départ où je ne me suis pas senti respecté par certaines personnes autour de Jérémy. Quoi.
Ok. Pas trop chaud de vous croiser aujourd'hui sur le circuit, sur les tournois?
Ouais, c'est un peu dommage. On se croise. Quand j'ai entraîné Vatchek a joué contre lui. Bon, avec le temps, les choses se sont un peu assouplies. Après, bon, malheureusement, c'est tellement difficile. C'est grand ça. Quand il y a un procès, il y a tellement de traces qui ont été faites. C'est quand les avocats s'en mêlent. Là, c'est vraiment des grosses déchirures. Ouais. Ça, c'est dommage parce que voilà, toutes les choses sont exagérées. Donc là, forcément, tu reconnais plus ton histoire. Donc ça fait remonter des choses qui sont pas bonnes. Après, je pense que l'un et l'autre, on sait ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait l'un pour l'autre. Donc il y a quand même au fond un respect qui est là. Donc pour l'instant effectivement on se reparle pas, Bon, Félix s'est entraîné avec lui, on a partagé le cours, on s'entraîne ensemble. Je veux dire, il n'y a pas d'agressivité entre nous. Bon, mais c'est voilà, c'est dommage. Peut-être qu'un jour, le temps sera venu pour se reparler. Mais c'est vrai que c'est pas évident dans le contexte de compétition, parce qu'après j'ai entraîné quand même des joueurs qui sont en compétition, voilà, direct et en mode compétition. Donc on va dire que les conditions ne sont pas favorables pour ça.
Ouais. Après, tu embrayes avec Caro Garcia. Qu'est-ce que tu as vécu avec et qu'est-ce que tu en as tiré avec recul?
Voilà, encore super expérience. C'est-à-dire que bon, on a une expérience en fait où là j'avais plus un rôle différent, c'est-à-dire que j'étais entre guillemets conseiller de Louis-Paul Garcia déjà à l'époque, puisque Louis-Paul, c'était clair dans sa tête, il voulait entraîner sa fille. Donc voilà, j'étais un rôle plutôt de conseiller, et de temps en temps j'étais bien sûr sur le cours, mais j'avais pas le lien direct avec le joueur. Donc c'était vraiment un rôle un peu différent, mais là aussi voilà, la chance de travailler avec une super athlète, voilà, même s'ils ont toujours voulu, et ça il faut aussi respecter, voulu faire leur projet familial. Mais
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Voilà, c'était une grosse expérience, parce que tu apprends toujours, voilà, comment adapter ton coaching à une joueuse qui a un projet familial fort où le papa a un rôle très important. Et donc moi j'ai voilà, par contre la rupture après s'est très bien passée, parce que en fait voilà, papa a souhaité à chaque fois, puis il y a une Nathalie Tauzia aussi qui a pris ma suite et qui a eu un peu le même rôle, mais ouais. Le papa, ça a toujours été clair pour lui qu'il souhaitait tout simplement entraîner sa fille, et ça s'est très bien fait. On a appris les uns des autres, et voilà, puis on se croise là. Par contre on a des très bonnes relations, on continue à échanger tous ensemble.
Après, tu as eu une belle aventure avec Vasek Pospisil, un peu plus longue qu'avec Caro. Vous êtes parti de loin, il était 600e mondial, vous êtes monté hyper haut, 25e, 4e en double, tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu as reproduit un succès un peu à la Jérémy en partant de moins loin? Mais c'est incroyable quelque part de vivre deux aventures comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous en raconter?
Ouais, ça c'est... C'était voilà, avec Vacek, c'est un super souvenir, parce que c'était une période de 4 ans. Il était 140e mondial hein, quand j'ai commencé. Hein.
Ah d'accord.
Pas 600e, il était 140e. Donc il était déjà 140e. Donc c'était en 2000, il est de 90, et on a commencé en fin 2012. Donc il avait 22 ans, il allait avoir 23 ans. Donc c'était déjà un joueur déjà formé, un joueur professionnel.
Ouais. Ouais.
Ok, 140e mondial, un certain âge. Et là, c'est voilà, c'est 4 saisons. Pas que des bons souvenirs, mais c'est super relation. C'est un mec qui est très bien, un mec intelligent. Et là, par contre, c'est là où un joueur qui est déjà 140e mondial, qui a 22 ans et demi, il va avoir 23 ans. Et là, mon expérience en fait d'enseignant, d'avoir appris à faire évoluer quelqu'un techniquement, et avoir vécu tout le processus que j'ai vécu avec Jérémy, là, ça m'a bien aidé, parce qu'en fait, Vacek était un joueur qui avait des qualités physiques, des qualités mentales, ouais, qui était un gros, gros, gros travailleur. Ça, c'était son point fort, gros travailleur. Ouais. Ça, c'est vraiment sa première qualité. Et là, j'ai pu développer en fait sa technique. C'est-à-dire qu'il avait un potentiel de service, mais il ne servait pas très bien. Coup droit, pareil, très bon qualité de relâchement, mais pas très performant. Et j'ai pu le faire évoluer techniquement. Donc, ça, c'est intéressant, parce qu'on dit souvent ben, on ne peut pas faire évoluer techniquement un joueur, etc. Et là, ma compétence technique s'est réellement mise en place avec lui. Et là, à partir du moment où on a commencé bizarrement, d'ailleurs, parce qu'on a fait un test ensemble fin 2012.
Ça.
Et ça a tout de suite matché. C'était à Vienne, au tournoi de Vienne. Il passe les qualifs, ça a tout de suite matché. Et puis après, il a eu une mononucléose quand on a commencé la off-season au mois de décembre.
Ah, merde.
Donc la mononucléose off pendant 2 mois.
Ah oui.
Et on a repris en fin février.
Ouais.
De zéro, sans off-season, sans entraînement, sans rien. Et c'est en 2013, et c'est là où il fait une super année. Et là, ça, voilà, comme je t'ai dit, l'alchimie était tellement bonne entre nous. Mes compétences matchaient complètement avec ses besoins. voilà, de rendre son jeu en fait plus propre techniquement, parce qu'il avait les qualités physiques et grosse qualité mentale. Et là, clac, ça a tout de suite matché. Et il est monté très vite, 31e en 2013, puis 25e en 2014 ou 2015, je ne sais plus. Et là, super, quoi.
C'est Louis Borfiga, DTN, enfin, l'équivalent du DTN au Canada, qui t'appelle. Du coup, tu étais détaché par la Fédé ou tu étais à ton compte
Non, en fait, moi, j'étais toujours en freelance. Même quand j'ai, donc avec Jérémy, évidemment, j'étais travailleur indépendant. Avec Caroline Garcia, j'étais en prestation de service. La fédération me payait à la semaine pour travailler avec Caroline. Et ouais. Là, quand ça s'est terminé, Luigi Borfiga m'a appelé pour faire un essai. Et là, pareil, j'étais en freelance pour la fédération de Tennis Canada. Et après, j'ai basculé en direct avec le joueur. Parce qu'une fois que le joueur est dans les 100 premiers, après, c'est le joueur qui te paye en direct. Quoi.
Ok. Si tu devais isoler 2-3 souvenirs sportifs marquants avec Vasek, ça serait lesquels?
Ouais, Vasek là, c'était énorme. C'est-à-dire que là, il est monté progressivement. Donc on a en 2013, hein, donc en mars, quand on a après sa Monikers, on a repris là. Il s'est monté progressivement, on s'entendait bien, il a progressé. Et puis là, il a gagné Challenger, il a gagné plusieurs Challenger, différentes surfaces, il s'est qualifié à Roland. Et puis là, il a explosé l'été là, il fait la demi-finale. Au Master 1000 de Montréal, ouais. Là, en prenant 7-6-3e sur Raonic en demi-finale. Et là, c'était, tu vois, c'est un joueur qui s'exprime sur le court, tu vois, il est charismatique. En plus, il parlait avec moi, il a perfectionné son, il parlait un peu français, mais il a perfectionné son français. Donc à Montréal, il a tout de suite une cote un peu d'amour avec le public. Là, il y avait une ambiance incroyable. Là, c'était le premier gros souvenir, quoi, ouais. En 2013. Donc là, voilà, il monte rapidement, il finit en 2013 31e mondial, et puis après on reprend, on fait une bonne préparation, on reprend, et puis là par contre, voilà, Australian Open, boum, avant de jouer Wawrinka, il se bloque au dos, et on s'aperçoit qu'en fait là depuis quelques années, parce qu'il a fait un scanner, il avait trois protrusions discales au niveau du dos, ouais. Voilà, des anciennes protrusions discales qui se sont formées quand il était en formation, quand il a fait sa croissance. Et donc là, voilà. Donc là, on est rentré dans une deuxième phase, c'était de gérer ces trois hernies discales. Donc il a pu gérer jusqu'à l'année dernière. Tu vois, l'année dernière, il s'est fait opérer. Et là, il est revenu sur le circuit l'année dernière. Et donc ça a l'air d'être mieux pour lui. Donc on a passé les trois saisons d'après à gérer ce problème de dos. De gérer ce problème-là. Et on a réussi à quand même, avec des demi-saisons, entre guillemets, demi-saisons, trois quarts de saison, à stabiliser son niveau, puisqu'il a fait ses quatre saisons dans les 50 premiers avec un pic à 25.
Ouais.
Et là-dessus, voilà, en 2014, il fait sa finale à Washington. Il gagne le Wimbledon en double avec Jack Sock. Et puis en 2015, il fait la quart de finale en simple à Wimbledon. Quoi. Donc ça, c'est moi en tant que coach, bon. un super contre Murray sur le central. Là, c'était avec Beckham qui était deux rangs derrière, la royauté là à côté, ça, je veux dire, c'est quand même des moments sur le central, c'est quand même des moments inoubliables, quoi.
Incroyable. Et donc finalement, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à se stabiliser à ce classement-là, c'est à cause de ses pépins physiques.
Ouais, franchement, bon, j'espère que là maintenant, parce qu'il a fait la décision de se faire opérer. Il est bien revenu, il a des bons résultats quand même l'année dernière. Il n'est pas encore revenu à son niveau qu'il avait, mais nous, on a, quand on est arrivé à notre dernière année, jusqu'en 2016, on dit, allez, on essaie, avant 2015, on essaie encore une ou deux saisons ensemble pour essayer d'accrocher le top 20, etc. Et ouais. Puis on avait décidé l'un et l'autre, voilà, on se donnait cette chance-là. Si on n'y arrivait pas, on se séparait, tu vois, de l'un et l'autre pour essayer de trouver notre ressource. Moi, partir sur d'autres aventures, voilà, parce qu'il y avait des jeunes joueurs qui arrivaient au Canada. Donc, les choses se sont bien faites naturellement et on a décidé, effectivement, son dos était quand même une problématique qui nous a pas voilà qui était difficile à gérer, quoi, pour passer le cap au dessus, quoi, parce qu'après ce qui nous manquait, c'était la constance, qu'il puisse bien jouer, tu vois. Ouais. Et c'était surtout sur terre battue où son dos le faisait souffrir, voilà.
Et même en squeezant la saison de terre, ça l'aurait pas forcément fait.
On a essayé, mais on n'a pas réussi, tu vois. On a pas réussi parce que on avait la problématique de son dos. Et après, il y a une autre problématique, c'est qu'il c'est un des joueurs qui transpire le plus. Donc, sur les conditions humides, il avait aussi cette problématique-là. Ouais. Donc, c'était un peu. On avait un peu des demi, trois quarts de saison pour. C'était pas si évident que ça. Et on n'a pas réussi donc à augmenter cette constance dans le résultat pour passer le cap au-dessus.
Donc, après, tu embrayes avec ce qui s'appelle une Ferrari dans le milieu. Félix Auger-Aliassime, un poulain en or, on peut l'appeler comme ça. Ben, c'est quand même incroyable. T'envoies ton troisième joueur, plus une joueuse, mais d'élite. Tu vas aller chercher où? Comment ça se passe? C'est quoi ta botte secrète?
Ben voilà, après, moi, comme je ne suis pas... On m'a posé la question, parce qu'il y a Carole Bouchard qui a fait une interview sur les coachs, sur la précarité des coachs et en ce moment, etc., par rapport à la situation. À un moment donné, de toute façon, c'est le timing, les choses arrivent quand déjà il faut avoir quand même la compétence. Tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas entraîner un Félix Auger-Aliassime, même puisqu'il est, c'était après ses juniors. Ça ne se fait pas comme ça, quoi. Donc, ouais. Forcément, par rapport à ma légitimité, par rapport au travail que j'avais fait de processus avec Jérémy, et forcément, Luigi Borfiguet et Guillaume Marx qui s'occupaient de Félix dans la formation de Félix, bon, mais on était en contact et ils ont vu voilà, mes compétences, mon sérieux et ma capacité. À travailler en binôme avec Guillaume Marx, parce qu'on voulait aussi qu'il y ait une continuité dans le travail, et Félix aussi. Donc voilà, la connexion s'est faite rapidement, et la chimie, pareil, hein, que ce soit entre Guillaume, voilà, son équipe, Nicolas Perrotte, qui était préparateur physique là, au sein. On y a ajouté un préparateur, un physio qui travaillait avec moi quand il était avec Vacek, qui a des bonnes valeurs, qui est quelqu'un qui connaît le circuit, qui s'appelle André Vial. Donc là, l'alchimie avec Félix a tout de suite cliqué, parce que bon, bah, lui, on voit... Il a une éducation qui est très bonne, hein, et c'est quelqu'un de très bien structuré, mentalement il sait ce qu'il veut, donc tout ça, et évidemment c'est un athlète extraordinaire. Donc les choses ont cliqué, et forcément, c'est pas une garantie, mais voilà, avec la compétence et l'engagement de son équipe, ses qualités et son engagement, ben, ça nous a amené pour l'instant à 17e joueur mondial avec les résultats que tu connais, quoi. Et j'espère qu'on pourra aller plus loin. Et puis voilà. Puis après, moi, par rapport à mon histoire d'entraîneur, moi, je me sens prêt. Comme tu disais, c'est une question de timing. Les choses arrivent, voilà, au bon moment, parce que tu les mérites aussi, quoi. Hein. Je veux dire, ça se fait pas comme au hasard. Et donc, maintenant, je me sens, voilà, je me sens prêt. Toujours pareil, voilà. Tu te sens prêt à passer les étapes au-dessus. Tout ce que tu construis avant vont te permettre. Normalement, te permettent à chaque fois. J'ai toujours, tu vois, personnellement, j'étais 59e mondial. Après, j'ai eu Jérémy 31e, Valchek 25, là, Félix 17e. Bon, mais je te cache pas que l'objectif, voilà, c'est d'aller accrocher au moins un tour du Grand Chelem avec lui, puisque lui, de toute façon, c'est son projet. Et moi, en tant qu'entraîneur, parce que les entraîneurs, ils ont aussi leur projet, c'est d'aller. Et aujourd'hui, autant à l'époque, tu sais, il faut aussi se sentir dans la peau de celui qui va pouvoir. Et autant en tant qu'entraîneur avec Jérémy à l'époque, bon, tu as envie d'y aller. Ou moi, en tant que joueur, tu dis, ouais, je vais être dans les 100. Mais il faut aussi se sentir. Autant maintenant, par rapport à, ouais, j'ai 50 ans, j'ai une expérience. Voilà, je me sens, moi, en tant qu'entraîneur, capable d'aller un joueur amené à accrocher un titre du Grand Chelem.
Tu lui vois quelle marge de progression, hein, Félix?
La marge de progression, elle est évidemment, il y a 19 ans, elle est encore dans tous les domaines, quoi. Ouais. Et voilà, donc, techniquement, tactiquement, physiquement, mentalement.
C'est quoi ses forces?
Alors, ses forces, il est très athlétique. Voilà. C'est quelqu'un de très athlétique, il est à la fois puissant, endurant, coordonné, rapide. Donc, ça, c'est ça qui frappe. Et évidemment, avec une tête bien faite, quoi. C'est quelqu'un, voilà, par son éducation, parce que je ne connaissais pas ses parents, mais j'ai appris à connaître ses parents, son entourage. Voilà, très, très belle, très bonne valeur. Très bonne valeur, et donc forcément lui aussi. Voilà, tout ça est déjà, voilà, que ce soit au niveau mental, parce que c'est ça le plus important, au niveau mental et au niveau physique, les valeurs sont déjà très élevées. Donc forcément, quand tu pars de là.
Il y a une part de chance quelque part dans tes collaborations, parce qu'il faut tellement bien s'entendre, fitter humainement parlant avec les personnes que tu accompagnes. Tu dirais que tu es quelqu'un de vachement souple, du coup, au niveau de ton caractère, pour pouvoir t'adapter aux joueurs, ou comment ça s'est produit à chaque fois?
Ben, en fait, il y a deux aspects. En fait, le fait d'avoir construit aussi ma carrière d'entraîneur de façon indépendante, j'ai pu aussi développer le fait de choisir mes projets. Ouais. Donc, c'est déjà le point principal. Et puis après voilà, un entraîneur, déjà c'est, je vais dire, c'est 75%, 80% de la réponse à ta question. Et après les 10-15%, voilà, l'entraîneur, de toute façon, il va s'adapter, il est au service du joueur, il n'est pas sur la scène, et voilà, il met en place les choses qui font. Donc forcément, le caractère, voilà, l'ego, je dirais l'ego, je n'ai pas été suffisamment un très grand joueur pour pas avoir un ego mal placé. Ouais. Et suffisamment quand même pour comprendre certaines choses, tu vois, et voilà, c'est un peu cette alchimie qui, qui se met en place et qui fait que voilà, tu as des compétences pour pouvoir faire ce métier avec la passion. Parce que tu envoies, je veux dire, ce métier-là, si t'es pas passionné, comme c'est, il y a une composante humaine qui est tellement importante parce que tu vis, tu sais, toute l'année avec ton joueur, avec un jeune joueur, parce que les joueurs sont plus jeunes que les entraîneurs quand même normalement. Donc forcément, tu as des qualités techniques que tu apportes un service, mais en même temps tu développes, tu vois, ton joueur, tu vois, humainement. Voilà, tu es dans un développement personnel, donc forcément. Voilà, il faut faire ça avec passion parce que voilà, il y a tellement d'émotions, tellement de voyages, tellement de pression que si t'es pas passionné, tu peux pas absorber ça, quoi. Ouais. Tu peux pas absorber ces choses-là.
Pourquoi fonctionner en binôme avec Guillaume Marx pour coacher Félix?
Mais écoute, déjà, c'était, je trouve que c'est très bien. Comme moi, à l'époque, j'avais fait ça avec Jérémy Chardy, par exemple, parce qu'on sait pas trop. Mais c'est que moi, j'avais pris quand Jérémy, avant qu'il soit dans les 100 premiers, j'avais fait rentrer dans l'équipe Jacques Hervé qui a été un joueur de première série et qui a formé et entraîné plusieurs numéros à mondiaux en double, donc Boupati, Paes et des joueurs de simple comme Lionel Roux, Byron Black qui était dans le top 20. Et donc ça, on le sait pas trop, tu vois, par rapport à c'est que voilà, c'est l'important à un moment donné de s'entourer donc de personnes qui peuvent t'apporter, je veux dire, d'avoir un regard extérieur aussi sur ton coaching. Et donc avec Guillaume qui a formé, je veux dire, ouais, qui a entraîné pendant, que je dise pas de bêtises, mais je crois 3 ans avant moi, qui a entraîné aussi Félix, même s'il était avec son père aussi avant. Et donc là, ils avaient une très bonne relation ensemble, ben, de s'appuyer sur ça, une bonne connaissance. Guillaume est quelqu'un qui a des très bonnes valeurs. Et puis l'ayant vécu maintenant depuis 4 ans, puisque ça fait quand même 4 saisons qu'on a fait tous ensemble là. Ouais. Eh bien, je pense que c'est la bonne formule. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients à partir du moment où on partage les bonnes valeurs à deux coachs, qu'on partage la même vision. Eh bien, en fait, il y a plein d'avantages. C'est-à-dire que voilà, ben, on partage la responsabilité, on s'entraide, on évite un peu le problème d'usure aussi. Tu sais, d'usure quand tu es toujours avec ton même joueur, ouais. Il y a un phénomène d'usure qui se crée. On est deux yeux à voir le problème avec une vision, un aspect un peu différent, avec des angles différents. Et voilà, donc là et voilà. Et puis l'aspect des voyages aussi, tu sais, quand tu as une famille, bon, Guillaume a une famille, a 3 enfants, moi j'ai 2 enfants, on le voit, je veux dire, cet engagement, cette passion, mais il y a aussi l'équilibre familial et de se partager les voyages, même si on se rejoint sur les gros tournois ensemble. Je trouve que ça a beaucoup plus d'avantages d'être à deux à partir du moment où on a les mêmes valeurs que d'être tout seul, quoi.
Est-ce que tu ressens cette espèce d'épée de Damoclès d'être coach indépendant plutôt que coach fédéral où tu as une sorte de contrat, de salaire, de sécurité?
Ben, en fait, moi, je pense que ce n'est pas compatible. Le haut niveau n'est pas compatible avec le système d'avoir un on doit être dans le même bateau que son joueur. C'est-à-dire que la compétition, c'est l'adaptation. Il faut être un petit bateau. Il faut être dans un système qui est complètement réactif, d'adaptation très rapide. Donc forcément, l'aspect financier et donc le statut de l'entraîneur, il doit être très proche de celui du joueur. Le joueur, il n'est pas salarié. Il n'a pas son salaire qui tombe chaque mois. Ben, s'il gagne, voilà. Alors tout ça permet, en fait, quand l'entraîneur est dans le même système que son joueur, et bien, à un moment donné, de toute façon, il va lui dire ce qu'il a à dire au moment où il faut. C'est-à-dire qu'il va lui dire blanc quand il faut dire blanc, il va lui dire noir quand il faut dire noir. Il va pas lui dire gris. Et quand tu es indépendant, voilà, comme j'ai été en fait tout le temps, tu mets l'environnement qui crée les conditions pour que tu sois dans cet état d'esprit. T'as pas le choix. T'as pas le choix si tu veux être performant. Voilà. Et voilà. Donc forcément, ça a de la précarité, de l'instabilité, mais c'est ça la compétition. C'est ça. Si tu veux aller accrocher les derniers maillons en haut, ça c'est les 5% que tu voilà qui font partie de la... Alors effectivement, en ce moment, c'est tu vas me répondre, mais comment ça se construit, en fait? Ça se construit et ça se décide pas comme ça, hein, parce qu'il faut quand même gagner sa vie. Du jour au lendemain, on voit que le joueur, il peut arrêter avec son coach, etc. Mais je dirais que moi, je personnellement, et c'est ce que j'ai toujours, je donnais ce conseil aux membres de mon équipe, que ce soit le physio, etc., de leur dire, c'est important de ne pas être dépendant financièrement complètement du joueur. Donc ça se travaille, ouais. ça se met en place. Et c'est pour ça que j'avais fait ce choix-là au tout départ, et je ne regrette pas. Mis à part le fait d'avoir une famille solide, hein, il faut avoir un socle familial solide, mais après ça, c'était valeur, etc. Mais c'est de, de construire une façon pour que tu puisses ne pas être complètement dépendant financièrement de ton joueur. Ça, c'est une clé importante.
Comment tu fais du coup quand tu as un joueur et que tu passes tout ton temps avec ?
Voilà, ben c'est ça, c'est pour ça que je te dis, ça ne décide pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se. Voilà, c'est un projet. Toi aussi, l'entraîneur, il doit être dans un processus. Ouais. Comme un joueur, s'il est que dans le résultat et qu'il n'est pas dans un processus, qu'il ne voit pas tous les aspects, ben à un moment donné, il va se retrouver confronté à une problématique. Donc, je dirais aux entraîneurs, mettez-vous dans un processus avec les tenants et les aboutissants, les difficultés du métier, de bien se renseigner. Et c'est pour ça que je ne regrette pas d'avoir créé, moi, au tout départ, voilà, mon académie au départ pour voilà, créer je veux dire, voilà, une forme de développement, de développement financier, personnel, et d'avoir continué en parallèle, voilà, parallèle des choses qui font que tu peux partir avec un seul joueur. Parce que imagine, si tu as une précarité financière, tu vas avec un joueur où c'est difficile finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec un joueur, il rentre dans les 100, et surtout à partir des 100, dans les 50 premiers, il y a de la pression parce que le joueur commence à gagner de l'argent. Mais les journalistes, les sponsors, il y a de l'attente. Quand ça perd, mais il faut, voilà, il faut un coupable, il faut la responsabilité. L'entraîneur, il est là, il a toute cette pression en main. Donc, si lui, il n'a pas un socle familial ou un socle personnel très solide, et si en plus, financièrement, il est complètement dépendant de son joueur, t'imagines bien qu'à un moment donné, quand il faut lui rentrer dedans, parce qu'il n'a pas envie d'entendre ce qu'il doit entendre, ben tu vas, tu sais, si tu es dépendant, tu vas y réfléchir à deux fois. Et donc là, tu perds. Dans tous les cas, tu es perdant parce que si tu lui dis, si tu restes tiède par rapport à ce que tu vas lui dire, de toute façon, ben, tu ne vas pas arriver à le faire progresser. Quelque part, ça va se payer. C'est ça le métier d'entraîneur, il est là.
Quel a été ton plus gros craquage, ta plus grosse, la fois où tu as été le plus en colère en tant que coach sur le circuit? Et à cause de quoi?
Le plus en colère? Non, j'ai jamais eu de la colère en tant que coach.
Ok, tu arrives vraiment à gérer tes émotions.
Mais les gérer, les émotions, voilà, on les gère, on peut pas sortir, mais j'en suis jamais arrivé à la colère parce que, en fait, le coach, lui, c'est le gardien du processus. C'est-à-dire que quand tu es un coach, lui, il est toujours dans le futur, il construit des choses. Donc, le joueur, lui, dans le résultat, il veut gagner, il n'est pas content s'il gagne pas, il ne veut pas perdre. Toi, tu es le coach, il est gardien du processus. Donc, quand tu es gardien du processus, ben, t'as pas. Tu peux, si tu arrives à la colère, c'est que tu as mal fait ton boulot, quoi. Ouais. Voilà, c'est que tu, voilà, bien sûr, tu as de la frustration, tu as des émotions, tu vas être déçu, mais tu peux pas être en colère, quoi, pour moi.
Hein. Comment tu continues de coacher à distance là pendant le confinement? Enfin, c'est quoi le type de routine, de rapport que tu as avec Félix?
Ben, on a une super équipe avec Guillaume, avec Nicolas, donc et le physio, donc Andrés Vial. Et écoute, là, avec le confinement, etc. Donc, lui, on a mis l'accent sur la préparation physique. C'est-à-dire que là, on fait un programme de développement physique pour justement, on n'a jamais le temps sur le circuit, tu sais, avec l'enchaînement des tournois, de travailler physiquement. Mais là, c'est exactement ce qui est intéressant à l'âge de Félix de développer ses qualités, quoi, et de passer du temps là-dessus.
Comment tu gères le temps passé sur le portable avec les réseaux sociaux et compagnie?
On a eu ces discussions avec Félix, etc. Bon, moi, j'ai avec mes enfants, j'ai un garçon qui a 17 ans, ma fille qui a 14 ans. Tu ne peux pas les couper parce que, voilà, aujourd'hui, même nous, hein, c'est même toi, je veux dire, tu ne peux pas couper, je veux dire, du portable, des réseaux sociaux parce que voilà, la vie évolue, les choses évoluent, donc on ne peut pas se couper complètement. Par contre, c'est comme tout, quoi, c'est un outil, il ne faut pas exagérer, il faut savoir bien s'en servir. Donc, c'est de se reparer, c'est de l'éducation. Donc, on a discuté avec Félix. C'est son entourage, nous, son sportif, de la bonne utilisation, de faire attention. Parce que la difficulté pour un joueur, même comme Félix, c'est que quand il va perdre un match, tu imagines bien tous les commentaires, etc., des réseaux sociaux. Donc, ouais, forcément, il les lit. Le joueur, il les lit. Donc, il y a un impact. Mais bon, voilà, c'est des discussions, c'est l'éducation, c'est de savoir avoir du détachement, voilà, du détachement du regard de journalistique, des réseaux sociaux. Voilà, c'est l'éducation. Et Félix, il, comme c'est quelqu'un qui a des bonnes bases, il le gère.
Vous n'avez pas forcément de règles, il s'autogère assez facilement là-dessus.
Ouais, non. Voilà, je veux dire, les règles, elles sont pas, tu vois, on force jamais. Enfin, en tant qu'entraîneur, moi, j'ai jamais forcé un joueur. On lui explique, on éduque, on lui ouvre des facettes, mais on ne force jamais. C'est lui, après, la responsabilité sur le terrain pour qu'il soit le meilleur joueur de tennis possible. Il faut qu'il ait la responsabilité de ses coups, donc il a forcément la responsabilité de ses décisions dans sa vie, quoi.
Est-ce que tu as des anecdotes sympas vécues avec Roger, Rafa ou Djoko qui humanisent un peu ces champions, ces espèces de légendes du tennis?
Ouais, écoute, alors on a eu la chance de passer 4 semaines avec Roger Federer parce que Félix a servi entre guillemets de sparring, tu vois. Donc là, c'était intéressant de voir un peu le Roger. Enfin, c'était à Dubaï, tu vois, on est parti 4 semaines à Dubaï.
Pendant l'intersaison.
L'intersaison, ouais. Donc c'est fin 2018, non fin 2017, voilà, c'est ça, fin 2017.
Ok.
Donc là Federer, c'est sympa de voir de comment il est. C'est quelqu'un de très décontracté. Après d'anecdotes, non, j'ai pas comme ça d'anecdotes particulières, mais par contre,
il a bien son, il a pas une suite à l'année dans l'hôtel.
Ça, je sais pas. Je sais pas si une chose, c'est que il est là, c'est là où on s'entraîne en fait, c'est là où il s'entraîne, c'est le club, il est là quoi.
Ouais.
Le club, il est là juste en dessous, là, c'est là, en dessous du Burj Al Arab. Ouais. Ouais. Là où il y a le truc d'hélicoptère, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est là où il y a le truc d'hélicoptère, là, où il peut se poser.
Ah oui, la palme.
C'est pas la tour, la grande, c'est pas la grande, voilà, c'est l'autre.
La palme où il avait fait une exhibe avec Agassi à un moment donné, ouais.
Voilà, c'est là où on s'entraînait là. Ouais. Mais bon, après, voilà, c'est quelqu'un de très bien. Par contre, ce qui nous a frappé, c'est le volume d'entraînement. Tu vois, il paraît pas comme ça, on croirait, mais il passe vraiment, il a un gros volume d'entraînement.
Ce qui représente combien de temps par jour ou comment ça se
passe? Ben ouais, quand on était avec nous, après voilà, il montre pas ce qu'il fait physiquement, hein, parce qu'il a toujours été secret par rapport à ça. On voyait juste s'échauffer et sur le terrain. Mais bon, des fois on s'entraînait 4 heures de tennis, tu vois, mais avec du bon volume, puisqu'il avait son physique à côté, donc c'était voilà, c'était des bonnes journées quoi. On croit que tu vois Roger qui est facile, etc. Mais il passe du temps quand même sur le court.
Ah ouais, avec Paganini, du coup, ils font leur prépa vraiment à l'abri.
Ah ouais, c'est toujours à huis clos. Ouais. À part l'échauffement, le petit échauffement qu'il fait.
Ok, incroyable.
Ouais. Et toujours été secret parfois. Ça.
Et il a été, il a eu envie de transmettre un peu à Félix. Il est dans l'échange pour lui permettre de comprendre, de voir certaines choses.
Ouais, complètement. Même avec nous, puisqu'on a eu l'occasion de manger avec lui le midi avec ses entraîneurs, avec Ivan, Lubici. Bon, enfin, après, on le connaît. Alors, j'ai un trou sur notre entraîneur. Et donc là, non, on échangeait voilà, sur des sujets. Donc, il était vraiment très 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 ouvert, très très bienveillant envers Félix.
Qu'est-ce que tu penses de son approche à Séverin et de leur collaboration à tous les deux?
Ben ouais, c'est particulier, c'est bien, mais Roger, il a toujours eu besoin d'avoir, et tu vois, il a gardé ses piliers, hein, que ce soit Paganini, ça fait très longtemps, Séverin, il a toujours très bien géré, là, avec d'ajouter Ivan comme quelque part comme entraîneur, tu vois, au niveau conseiller. Il a toujours, c'est un grand professionnel, tu le vois, hein, de toute façon, rien n'est fait au hasard quand tu vois tout est. Ouais. Tout est pensé, c'est un très grand professionnel quoi. Il est très relâché parce que tout est préparé, chacun est à sa place. Il serait pas faire Roger Federer, mais après de l'intérieur, tu vois que ça repose pas sur du hasard quoi.
Et Rafa et Djoko, tu as des trucs vécus un peu avec eux?
Bah, Rafa et Djoko, on s'est entraîné, que ce soit avec Vacek ou avec Félix, mais on s'est juste entraîné quoi. J'ai pas eu de choses en dehors, mais bon, c'est toujours très bien passé. Il n'y a pas eu de. Non, j'ai pas de choses particulières, tu vois, à te raconter là-dessus. Ouais.
Et toi, tu continues de jouer très régulièrement, tu continues de bien sentir la balle?
Si j'ai pas bougé, ça va. Donc on continue un peu à taper des fois, mais de moins en moins, parce que c'est vrai que maintenant, en plus sur les circuits, il y a beaucoup de sparring, quoi. Les tournois offrent des sparring même pour s'entraîner. Donc on a de moins en moins l'occasion de taper. Donc en dehors avec Guillaume ou avec Nicolas, on va taper pour nous pour garder la main. Parce que des fois, il faut sur l'échauffement, il n'y a pas un sparring, donc il faut échauffer Félix.
Ouais.
On puisse au moins, donc ça va. Tant que j'ai pas bougé, ça va.
Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Quel est à ce jour le plus gros regret vis-à-vis de ta carrière, que ce soit en joueur ou en coach, les deux confondus, le truc où tu dis putain, j'aurais bien aimé.
Avec le recul, c'est facile, tu vois. Le regret, oui, c'est de ne pas avoir été plus constant, évidemment, de rester plus constant dans les 100 premiers mondiaux par rapport à mon année. Mais bon, après, les causes, maintenant, les raisons, je les connais maintenant. Mais il n'y a pas de regret, tu vois, de choses que j'aurais pu, je peux t'en donner, dire, voilà, j'aurais dû faire plus attention à travailler d'une certaine façon physiquement, à faire évoluer mon jeu, tu vois. Mais ça, c'est des regrets, mais ça, voilà, à l'époque, j'avais pas la capacité de le faire. Regret comme ça en tant qu'entraîneur, non, le plus gros regret en tant qu'entraîneur, c'est la façon dont ça s'est fini quand même avec Jérémy. Ça, c'est quand même dommage parce que c'est pas des choses qui sont c'est la chose la plus désagréable dans ma carrière de joueur ou d'entraîneur quoi. C'est ça, après le reste, j'ai pas de regret parce que là, pour moi, je j'ai réellement fait ce que j'avais envie de faire. Et en plus, avec, voilà, avec une satisfaction du résultat et avec encore une envie. Et voilà. Donc, j'ai pas de regret particulier.
Tant mieux. Ton plus bel accomplissement, ta plus grande fierté.
En tant que joueur-entraîneur
Ouais, les deux confondus. Ouais. Vraiment, ce qui fait l'unanimité, quoi.
Non. Moi, après, c'est une réponse un peu hors cadre, mais je pense que ma plus grande fierté, c'était d'avoir été capable d'allier à la fois, tu vois, mon socle familial et de faire le métier que je fais.
Ouais.
Parce que c'est, tu vois, c'est ça qui est le plus important. Parce qu'après, voilà, ma passion, évidemment, c'est mon métier, mais d'avoir ma femme et mes enfants, d'avoir toujours un socle familial très fort. Et donc, ça, dans le monde du tennis, c'est pas rare, mais presque, je crois.
T'es engagé sur combien de semaines par an?
Écoute, je fais entre 24 et 29 semaines, quoi, avec Félix. Hein.
Et le secret.
La tchèque, c'est plutôt 35 semaines, tu vois, donc c'est quand même.
Et le secret, justement, pour fonder une famille en parallèle, c'est quoi?
Bon, après, voilà, c'est la bonne personne, ça c'est sûr. Mais bon, la bonne personne, elle est aussi par rapport, voilà, les bonnes personnes se rencontrent, c'est les bonnes valeurs, pour moi, c'est ce qui font le fondement, de toute façon, que ce soit familialement ou quand tu fais un métier, c'est les valeurs que tu vas transmettre, c'est le travail sur soi, tu vois, c'est de toujours continuer à essayer d'être, tu vois, de développer ses capacités personnelles, d'être toujours en, voilà, d'avoir l'humilité, de savoir qu'on est toujours en apprentissage. Voilà, moi, ça m'intéresse, je suis toujours intéressé là à m'améliorer personnellement. Voilà, c'est ces valeurs-là, voilà, de respecter l'autre, d'avoir l'humilité, d'aimer transmettre, voilà, de partager des choses, parce qu'au final, c'est le métier qu'on fait. Moi, je sais que la plus belle récompense quand je suis avec mon frère, c'était cette espèce d'adrénaline quand il gagne un match, c'est des émotions, tu vois, très fortes, c'est ça, en fait, la récompense, quoi. C'est quand tu tries tout, c'est ça qui est c'est ces émotions-là après la victoire, c'est ça qui est.
C'est vrai que quand en tant que fan de tennis, quand on regarde un match et qu'on voit le box se taper dans la main, se prendre dans les bras après une victoire, que ça soit au premier, deuxième, troisième tour, quart, ce que tu veux, tu te dis que toi, dans ta vie, tu ressens et tu partages rarement ce genre d'émotion. Tu vois ?
C'est ça.
Tu vas te prendre dans les bras, quoi, quand tu vas faire la photo de famille après un mariage ou un truc comme ça.
C'est ça.
Et c'est assez rare, et que finalement, le prix à payer d'être loin de ta famille versus l'engagement émotionnel et ce que tu vis avec tes collaborateurs sur le circuit, c'est quand même incroyable, quoi. C'est fou.
C'est ça. Ouais, c'est pour ça que bon, voilà, c'est au final, c'est que ça, parce que tu vois, on parle d'aspect financier, d'autres choses, mais le plus important, c'est-à-dire l'essentiel, c'est ça, quoi. Quand tu es entraîneur, et je dirais, c'est. Pour moi, c'est aussi fort quand j'étais joueur ou entraîneur, c'est équivalent. Tu vois, il y a pas de. Alors, tu subis un peu plus, tu vois. Donc, tu gardes tes émotions, etc. Tu libères pas. Donc, tu sais, après, tu vas faire un footing, tu vas faire du physique. Mais pour moi, l'adrénaline, elle est pareille. Même, je dirais, même des fois, elle est presque supérieure, quoi, par rapport à ce que j'étais quand j'étais joueur.
Ok. Bon, là, ceci dit, en période de confinement, ça doit te faire du bien. Ça fait longtemps que t'es pas resté aussi longtemps avec les tiens, j'imagine.
C'est ça, voilà, c'est des bons moments justement, d'être ensemble et de passer, voilà, des moments ensemble, d'échanger. C'est positif. Ouais.
Le conseil numéro un qu'un coach t'ait donné.
En tant que joueur,
ouais.
De continuer à travailler sur soi, tu vois, en tant qu'entraîneur. Ça, c'est des choses en échangeant qui étaient très importantes. Voilà, il n'y a pas de choses plus importantes qui me viennent, quoi. Si ce n'est un ensemble de principes, quoi, de principes de la performance. Mais l'un des principes très importants, c'est que l'entraîneur, il doit continuer à travailler sur soi, quoi. Ça, c'est très important.
Continue de te former, d'apprendre.
Ben moi, en fait, j'échange beaucoup avec des personnes de différents domaines. J'adore l'histoire, j'adore le développement personnel. Enfin, quand je dis développement personnel, c'est tout ce qui est l'aspect psychologique, l'aspect scientifique aussi, des choses, parce qu'on trouve toujours des parallèles, voilà, l'aspect philosophique. Donc on a la discussion avec Félix, c'est marrant parce que on prend des points politiques ou philosophiques et on échange en équipe.
Ouais.
Donc ça c'est bien, voilà. Tu es obligé d'être, en tant qu'entraîneur, tu es un généraliste, c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir des compétences générales dans tous les domaines, d'être moins un chercheur là-dedans, d'échanger avec des personnes, de lire, de faire des formations. Moi, je sais qu'en ce moment, depuis un moment, je suis, j'essaie de, en fait, de synthétiser. J'ai fait ça il y a 5-6 ans et maintenant je l'affine quand j'ai un peu plus de temps. Les clés pour moi, les principes de la performance que tu retrouves dans le haut niveau, comment tu peux les appliquer, tu vois, à d'autres personnes, et ça, tu vois, ça m'intéresse. Donc ça m'oblige encore à un autre niveau à affûter en fait mes connaissances généralistes de la performance. Et parce que tu peux pas être un spécialiste, tu peux pas être un spécialiste partout, être un préparateur physique, l'entraîneur, c'est un généraliste, il est capable de discuter avec un préparateur physique, de lui exprimer ce qu'il veut et de sentir et de vite évaluer si c'est ce qu'il lui faut pour son joueur ou pas, tu vois. Donc tu es obligé d'avoir des connaissances et après voilà, le spécialiste, tu t'entoures de spécialistes. Donc moi je continue à étoffer mes facettes de généraliste dans plein de domaines parce que tu transfères des choses. Quand tu écoutes des documentaires scientifiques, tu vas transférer, tu vas comprendre des choses que tu vas transférer. Et puis après, le deuxième, là, le stade-là, comme je t'ai dit, c'est tiens, comment transférer, je ne suis pas le premier, mais de transférer ces principes de la performance. Moi, je suis dans la performance depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait 40 ans. Ouais. Et il y a quand même des choses sur lesquelles tu reviens. Et je vois avec mes enfants ou avec. J'ai l'occasion ici de t'as des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui me demandent, tiens, qui échangent, comme, tu vois, avec des athlètes de haut niveau, etc., enfin, avec moi. Et en fait, tu vois qu'il y a quand même des clés communes et ça m'intéresse, quoi. Donc là, forcément, tu restes, tu continues à apprendre, quoi.
Yes. Si le tennis avait pas existé, tu penses que tu aurais fait quoi?
J'aurais aimé, en fait, être dans le médical, tu vois, ostéopathe, ça, c'est un truc qui m'aurait bien plu, tu vois, là. D'être dans ce domaine-là, quoi, de l'ostéopathie, tu vois, de la santé, le fonctionnement du corps, d'amener à ce que les personnes puissent comprendre le fonctionnement du corps humain et pour se sentir mieux, pour faire du sport, voilà, pour être en bonne santé, c'est ce que j'aurais fait.
Sur une journée type que tu vis sur le circuit, qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée?
Sur une journée type, quand on a fait ce qu'on a décidé, quoi. Voilà. Quand on a fait ce qu'on a décidé, qu'on a avancé, tu sens que tu es tu sens que là, tu as passé du temps sur le terrain avec un joueur et tu as avancé. Tu vois, je ne parle pas de résultat, hein, parce que nous, c'est toujours le processus, mais tu as avancé dans le processus. Quoi. Le résultat, après, c'est une question de temps, en fait. Ouais. Tu sens que quand ça a avancé dans le processus, voilà.
Tu penses que c'est dangereux pour toi de se focaliser sur le résultat?
C'est toujours un dosage, en fait. L'un des principes de la performance, de toute façon, le résultat, ce n'est que la conséquence. Donc, si l'un des principes de la performance, c'est tu vas te concentrer dans le moment présent et le moment présent c'est les actions, donc c'est du processus, quoi. Voilà, c'est pas le secret mais c'est un principe, parce que forcément de toute façon à un moment donné t'es rattrapé par le résultat, mais les meilleurs ils ont très très bien compris ça, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur les choses qu'ils maîtrisent et ils laissent de côté les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc là on en revient à ta question, ils se concentrent pas sur le résultat mais ils se concentrent sur l'action à mener et le coach c'est lui c'est que ça, quoi.
Qu'est-ce que concrètement tu essayes de faire pour être une meilleure personne?
Pour être une meilleure personne, c'est tous les jours. Bon, pour moi, c'est un travail perso, comme c'est dit pour moi. C'est-à-dire que d'être. Si je suis bien moi, donc pour être une personne, je vais m'entretenir physiquement. Ouais. Je vais passer du temps ou échanger avec des personnes qui me sont proches. Et voilà, je vais travailler mes connaissances. Voilà, je travaille dans ces trois domaines. Voilà, si je travaille dans ces trois domaines, je suis bien, donc forcément, je vais être une meilleure personne. Donc forcément, si je suis bien avec moi-même, je vais être bien avec les autres, quoi.
Quelle est ta manière de te fixer des objectifs?
Mais en fait, souvent, ça vient… moi, j'ai un support. Quand je cours, quand je fais du sport, j'ai souvent des visions. J'affine ma vision, quoi. J'ai une vision maintenant à 50 ans avec le recul, mais j'ai une vision très, très claire de ce que je souhaite atteindre. Ouais. Et souvent j'ai des idées quand je fais du sport, en fait j'ai souvent une clarté qui me vient à l'esprit.
Et tu notes après tes temps, tes
études, ouais. Après c'est important, c'est ça. Après c'est tout ce qui est l'état, le coach, bon, c'est un architecte de ça. Là, le coach est l'architecte de la performance, il doit mettre en place un processus, donc forcément c'est quelque chose où tu deviens un expert à force, parce que ton travail c'est vraiment ça, quoi. C'est la planification du processus et de ce qui va se passer étape par étape pour atteindre un résultat. Donc moi, évidemment, je me l'applique à moi-même.
Est-ce que tu as un talent caché, Fred? Et sinon, si tu n'en as pas, quel est le plat que tu cuisines le mieux?
Alors écoute, dernièrement, là où j'ai bien progressé, j'adore faire les crêpes bretonnes. Alors, je ne suis pas au niveau de, à faire la pâte, tu vois. Donc j'achète la pâte, mais après je mets l'œuf dessus. Mais petit à petit, je suis pas très bon, pas au niveau de ma femme, au niveau de la nuit, mais c'est quelque chose que je suis capable de un peu élaborer, de le faire un peu à ma manière,
c'est de l'améliorer. Et hier, j'ai fait un épisode avec. Je me souviens même plus, rien qu'hier, je me souviens plus, mais c'était un joueur qui m'a répondu avec beaucoup d'assurance. Moi, ce que je fais le mieux, c'est les crêpes. Je me dis, OK, cool. Et toi, aujourd'hui, tu me dis, moi, ce que je fais le mieux, c'est mettre l'œuf sur la pâte déjà prête des crêpes.
Ouais, chacun. Ça. L'œuf, le fromage, voilà. C'est déjà un gros exploit.
Chacun à son niveau, il n'y a pas de souci, les gars.
C'est ça.
Tu disais que tu lisais pas mal. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie?
Ouais, alors il y a un, Le Guerrier Pacifique, très ouais. Très bon. Le Guerrier Pacifique. Et après, un autre, c'est Les 7 habitudes de Stephen Covey. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent.
Ah, mais tu
c'est un Américain.
Incroyable.
Pourquoi?
Je suis en train de le lire. On me l'a offert à Noël. Ouais. Moi, j'ai une petite routine de lecture le matin, mais là, je t'avouerai que j'ai un peu lâché. Mais ça m'intéresse. Ouais. Qui t'a marqué en particulier dans ce livre?
Mais écoute, en fait, ce livre, parce qu'après, évidemment, je l'ai lu celui-là, exactement, je vais te dire, en 2004. Ouais. En 2004, je l'ai lu et ça m'a aidé à structurer pas mal de choses. Il est intéressant ce livre parce qu'en fait, il a une approche structurelle qui est très bonne. Après, tu vas retrouver plein de choses qui veulent dire un peu la même chose, c'est dans certains bouquins de leadership, de tout. Et lui, celui-là, c'est fondamentaux, tu vois, en tennis, tu vois, technique, c'est les bonnes bases. Et les guerriers pacifiques, c'est super, c'est l'esprit. La philosophie est très, très bonne, quoi.
D'accord. Est-ce que tu as un film référence ou une découverte plus récente à nous partager?
Bon, là, on rigole parce que là, on est en train de regarder Walking Dead en ce moment avec les enfants. Bon, après, c'est pas la série de l'année, hein, mais donc là, c'est ce qu'on regarde. Mais après, non, moi, j'aime bien les films comme Le Dernier Samouraï, Gladiator, j'adore. Et Star Wars, quoi. Star Wars, pour moi, c'est quand même Star Wars, c'est quand même ma référence, quoi. Star Wars, j'adore.
Le concert le plus ouf auquel tu as assisté?
Alors, je ne suis pas du tout sensibilité musique. J'aime la musique, que ce soit classique ou autre chose. Donc, j'étais qu'une seule fois de ma vie dans un concert. C'était à Paris-Bercy avec Valérie. Whitney Houston, c'était très, très bien. Non, un deuxième, non, c'est pas vrai. Un deuxième, Jérémy m'avait offert pour mon anniversaire, Jérémy Chardy. Comment il s'appelle déjà là? Britney Spears à Miami. J'ai été voir deux concerts. Mais je ne suis pas du tout... C'était bien, hein, c'était sympa, c'est super les shows, etc. Mais je suis pas assez musique pour passer le cap.
D'accord. Est-ce que tu médites?
Pas régulièrement, mais occasionnellement. Je médite aussi en courant, quoi. Quand je cours, je médite aussi.
Ouais. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes particulièrement? Ouais,
j'aime bien l'excellence est une habitude. J'aime bien ça.
Très bien. Le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter, Fred, pour terminer?
Alors, le plus dingue, qui n'a rien à voir pour sortir un peu du tennis, que j'aimerais en fait... Ce que j'aimerais un jour réaliser, quand même, c'est un trek dans l'Himalaya. Quoi. C'est des choses que j'aimerais bien faire. Quoi.
Énorme. Et tu m'entraînes un peu pour la logistique et tout?
On échange. Bon, de randonnée, j'en fais. C'est-à-dire, la Pyrénées, je fais régulièrement des randonnées, tu vois, 4 heures, 4-5 heures. Mais après, le côté altitude, je ne sais pas. Pas trek dans l'Himalaya, pas l'ascension de l'Everest. Hein, quelque chose de... Tu vois, l'ascension... j'ai fait un peu d'escalade, tout ça, mais ça, moi, mais par contre, un trek, c'est-à-dire c'est plus de la randonnée, tu vois, pas de la haute montagne, quoi, hein, pas de la haute ouais. Montagne. Donc, on est, voilà, j'ai fait déjà quelque chose dans le désert, tu vois, j'ai fait déjà en moto, tu vois, j'avais traversé avec mon père et des amis, on a traversé tout l'Atlas en moto et le désert, tu vois, une partie d'abord du désert, ça j'ai fait, donc j'aimerais bien faire la haute montagne, voilà, donc là, ça.
Ouais.
Et voilà. Et donc, on en discute, tu vois. Voilà, on en discute avec des personnes, mais après, il faut trouver, comme avec mon métier, le timing, il n'est pas évident, quoi, parce qu'il faut du temps.
C'est combien de temps le trek dans l'Himalaya?
Bah, tu sais, le temps d'y aller, tout ça, il faut quand même. Moi, j'aimerais bien m'immerger pour en même temps aller au Tibet, tout ça, voir ces choses-là, tu vois. Il faut quand même au moins 3, il faut en tout 5-6 semaines, quoi, facile, quoi.
Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite avec Tennis Légende, Fred. Et accessoirement, quelques grands chelems, ça fera plaisir aussi.
Voilà, évidemment, pour sortir un peu du truc, évidemment, gagner un grand chelem avec l'équipe de Félix et Félix, ça c'est sûr que...
Merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir joué le jeu. À bientôt.
Voilà, Ciao. Allez, bon courage, ciao, à bientôt.
Merci aux vraies légendes qui sont encore là, les puristes qui écoutent jusqu'au bout. Un grand merci Fred d'avoir pris le temps de nous raconter ton parcours et de nous en livrer quelques clés. Si vous souhaitez d'ailleurs faire évoluer votre jeu et apprivoiser vos forces grâce à la stat, on a enregistré 4 optimisations gratuites avec Fabrice Barraud, notre statisticien préféré, qui est intervenu sur le podcast. Fabrice travaille depuis le début de la saison avec Félix Auger-Aliassime et son staff pour leur permettre de grappiller de précieux points grâce à la stat. Ces 4 clés sont en accès libre, en lien dans la description, et même si les matchs n'ont pas repris, je suis certain qu'elles vous aideront dans votre jeu. Venez aussi nous dire ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est la plateforme qui nous aide le plus à faire connaître la chaîne, et vous lire est tout simplement un régal. Merci à GG, Aurel, Tom, Simon et Tennis Champagne pour vos commentaires méga sympas. La palme de la semaine revient à GG qui nous dit tout simplement un gros merci à Johan, Max et à toute l'équipe de Tennis Légende pour votre investissement quotidien. Après le compte Facebook, le compte Instagram, puis maintenant le podcast, que de réussite, vous le méritez. J'apprécie le format, la profondeur des échanges, le casting retenu à travers une variété d'acteurs ayant œuvré ou œuvrant toujours pour la petite balle jaune. Ne changez rien, continuez à nous surprendre avec des personnalités toujours plus originales à découvrir ou redécouvrir. Mention spéciale avec l'épisode de Mansour qui ne manque pas de nous faire rire. Un grand, grand merci. Vraiment, ça nous motive sincèrement à tout donner chaque semaine. Donc lâchez-vous et devenez vous aussi une légende dans notre cœur. Merci aux tipeurs récurrents aussi qui soutiennent notre travail. On a créé un compte dont le lien est en description parce qu'entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description juste en dessous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Par avance, un grand merci si vous participez au sondage qui est toujours en ligne. On enverra un cadeau par tirage au sort. Merci pour votre bouche à oreille qui vraiment fonctionne à merveille. Donc ne lâchez rien. Merci pour vos commentaires et vos bonnes ondes de manière générale. Tous les liens sont juste en dessous en description. N'oubliez pas les 4 clés pour faire évoluer votre jeu grâce à la stat. À mardi prochain les légendes. Prenez soin de vous. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.